Vous êtes sur RTL.
RTL Petit Matin Week-end. 5h, 7h, avec Olivier Bois.
Bonjour à toutes et à tous, il est 4h58 sur RTL, on est ravis de vous retrouver pour ce RTL petit matin du dimanche jusqu'à 7h avec ceux qui sait peut-être qui sont arrivés en vacances et qui terminent une première nuit de fête, pourquoi pas Béa ?
Oh ben pourquoi pas, bien sûr.
Vous avez fait la fête nous, pas vraiment ?
Ah non, pas vraiment.
Tout va bien Béa ?
Oui.
Aux manettes de ce RTL petit matin avec vous, avec nous tous jusqu'à 7h. Bonjour Oriane.
Bonjour Olivier.
Vous êtes là aussi en studio, vous avez pas mal au crâne ce matin, tout va bien?
Non, ça va.
Il y avait une petite migraine hier, mais là vous avez l'air en pleine forme. Oriane, vous accueillez nos amis auditeurs. Rappelez-nous comment on fait pour nous joindre, pour nous laisser un petit message.
3210 code matin. Alors non, 3210 au téléphone et 64900 code matin pour SMS. Sinon la page Facebook, on va poster une petite photo.
Et pour postuler évidemment...
Pour le Paco Mago,
avec toujours ce cadeau, ce week-end en Corse qu'on fait gagner ce week-end. N'hésitez pas vraiment à nous écrire, ça nous fait plaisir de recevoir vos petits messages de bon matin. Le programme du jour, dans 15 minutes d'abord, on est avec un champion de MMA, ce nouveau sport de combat, vous savez, qui est maintenant autorisé en France. Combat pied, poing, au salle, qui se passe dans cette cage assez impressionnante, qui a toujours une réputation assez sulfureuse. Pour la première fois, il y aura un combat officiel vendredi prochain en France, à la Défense Arena. On parlera avec Gaël Grimaud, précisément un combattant français du MMA. On parlera, rien à voir, des pêches et des abricots ce matin, les fruits de saison qu'on est content de retrouver l'été, qui sont beaucoup plus chers cette saison, précisément parce que les récoltes ont été compliquées à cause de la météo. Donc il faut faire un effort pour nos producteurs, acheter français, quitte à payer, si on le peut, un petit peu plus cher. Et puis juste avant 6h, on sera avec le coach sportif d'RTL, Christophe Brun, l'acolyte de Michel Simès, qui nous dira comment on fait du sport l'été en vacances, entre deux merguez et un ou deux verres de rosé. Et puis on en parle évidemment, le Paco Mago, 6h40, le questionnaire Tour de France aujourd'hui qu'on a concocté avec toujours ce cadeau donc exceptionnel, week-end en Corse, départ de Calvi, tout frais payé, départ de Paris, arrivé à Calvi, tout frais payé par RTL, avion et hôtel. Vous appelez Oriane, vous vous inscrivez, on joue ensemble tout à l'heure à 6h40. Voici le programme chargé, il est 5h sur RTL.
RTL Petit Matin, Olivier Bois.
Et on va commencer avec le journal et une question un peu brutale, tiens, à la une ce matin. Est-ce que le Tour de France cycliste est déjà plié? Le vainqueur sortant, Tadej Pogacar, a écœuré littéralement la concurrence hier. Il a pris le maillot jaune, il a attaqué à 30 km de l'arrivée. Personne n'a pu suivre. Nicolas Georgerot, Tadej Pogacar apparaît très au-dessus de ses rivaux.
Première étape de haute montagne, il a plié la concurrence. L'appui en continu, les 11 petits degrés au sommet des cols, aucun impact. Tadej Pogacar a tracé sa route. Alors quand on lui demande s'il a enlevé tout suspense à la course...
Non, why?
Non, là, pourquoi? Il reste encore deux semaines, ce n'est pas fini. J'ai roulé à mon rythme et à la fin, il y a un gros écart.
Il fallait voir la tête des échappés, repris 1-1 par le Slovène dans les 30 derniers kilomètres, éberlué au moment d'être doublé. Guillaume Martin en faisait partie, le leader de l'équipe Cofidis, a fini 8e de l'étape.
C'est tout bonnement possible, oui. C'est assez phénoménal, c'est impressionnant, il n'y a pas d'autre mot.
Vexé de voir son équipe bousculée vendredi dans la longue étape du Creusot, Pogacar a donc répondu, ce n'est pas une réplique, c'est un séisme. Ses adversaires les plus sérieux, le Colombien Uran et l'Équatorien Carapaz, sont déjà à plus de 4 minutes 45.
Merci Nicolas Georgerot sur la route du Tour. On vous retrouve évidemment tout au long de l'après-midi, toutes les demi-heures sur RTL. Le Belge Wout van Aert est donc deuxième à moins de 2 minutes, mais il a montré hier ses limites en haute montagne. Et effectivement, les grimpeurs, ses principaux rivaux, à commencer par Carapaz, Nicolas vient de le dire, sont presque déjà à 5 minutes. Julien Alaphilippe, lui, va maintenant se consacrer à gagner éventuellement des étapes, puisqu'il a perdu beaucoup de temps hier. Il est à 19 minutes, lui, de Pogacar. L'étape du jour, c'est toujours en hauteur, entre Cluse et Tignes, la grande étape des Alpes, 144 km 900, une arrivée au sommet, donc à Tignes, après 21 km de montée. Le football, maintenant, on connaît les demi-finales de l'Euro, Italie-Espagne, ce sera mardi à 21h à Wembley, et donc Danemark-Angleterre, le lendemain, mercredi 21h, toujours à Wembley, à Londres. Hier, ce sont les Anglais qui ont surclassé l'Ukraine, victoire 4-0. Le Danemark, de son côté, a battu la République tchèque 2-1. En Formule 1, c'est Max Verstappen sur sa Red Bull qui s'élancera en pole position tout à l'heure à 15h. Au Grand Prix d'Autriche, Lewis Hamilton n'est que quatrième sur la grille. Le Français Pierre Gasly, lui, est sixième. Esteban Ocon, l'autre Français sur son Alpine Renault, n'est que 17e. Et puis juste un mot de tennis, à Wimbledon, Roger Federer poursuit sa route en deuxième semaine. Il est qualifié pour les huitièmes de finale, tout comme Zverev et Medvedev. Il est 5h03 sur RTL. L'incendie de forêt à côté de Narbonne a été fixé hier soir après un travail d'arrache-pied des pompiers. Aucun blessé n'est à déplorer. Ce sont 250 hectares qui sont partis en fumée à la faveur de sols très secs et d'un vent assez violent. Un camping a dû être évacué avec 140 vacanciers. Là où s'est rendu le maire de Narbonne, Didier Mouly.
Je suis descendu dès que l'ordre a été donné par les services de secours de faire évacuer ce camping de 150 personnes. Il était complet. En plus, c'était la journée d'arrivée. Les gendarmes ont été très stricts. On ne pouvait pas reculer quand on avait oublié quelque chose. Et tout le monde devait partir avec le moment où les gendarmes arrivaient vers eux. C'est grand camping, c'est compliqué, mais vraiment, ça a été une évacuation dans le calme. Il fallait pas grand-chose. Si le vent n'avait pas tourné, les premières maisons auraient été très touché, et on est tous rassurés puisque tout le monde a pu retourner chez soi, apaisé et tranquillisé.
Le maire de Narbonne, Didier Moulier, donc effectivement, toutes les habitations ont pu être préservées, il n'y a pas de blessés, tous les vacanciers ont pu retourner dans ce camping sous la tente ou dans le mobilhome. Au Canada, en revanche, 174 feux restent actifs dans le nord du pays, en Colombie-Britannique, la moitié se sont déclarés au cours des deux derniers jours à cause là, des records de chaleur qui continuent à être enregistrés. L'armée canadienne se tient prête à intervenir. Et puis en Floride, de nouvelles victimes ont été retrouvées dans les gravats de l'immeuble effondré, portant le bilan à 24 morts. 121 personnes sont toujours portées disparues. En bref, toujours dans le journal du dimanche aujourd'hui, le monsieur vaccin du gouvernement Alain Fischer met en garde. Ceux qui attendent pour se faire vacciner commettent une erreur. Selon lui, tout se joue dans les 15 jours à venir pour Alain Fischer, si on veut éviter une troisième vague à la rentrée. Il rappelle qu'à l'égard du variant Delta, du variant indien, eh bien une vaccination complète à deux injections protège à 90%. Et puis un autre débat sur la table, faudra-t-il organiser une vaccination directement au milieu scolaire au premier trimestre de la rentrée? L'idée est sur la table, proposée par un groupe de travail du ministère de la Santé, mais le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, même s'il ne ferme pas la porte, reste réservé quant à cette hypothèse. L'actualité politique maintenant, on vous en parlait dès hier matin, c'est ce congrès du Rassemblement National à Perpignan. Marine Le Pen qui va être réélue à la tête du mouvement, elle est la seule candidate, mais elle est très attendue cet après-midi à 15h pour son discours après la claque des régionales, aucune région remportée par son parti. Il y a des doutes qui s'expriment sur sa capacité à rebondir, même si hier les dirigeants du parti ont serré les coudes derrière leur patronne, Marie Mollet.
Oui, à la tribune, les cadres du parti ont tout tenté pour dédramatiser la défaite à coup de savants calculs.
En Marche a divisé son score par 3. Nous avons fait 20%, un recul de 3 points. On a connu pire, le deuxième meilleur score de notre famille politique depuis 1986.
Au pupitre, personne n'a tenté l'autocritique. Jordan Bardella, lui, balaie tout. Les critiques internes, les doutes, l'abstention, en clair, on oublie et on recommence.
Le silence des urnes, mes amis, que nous venons de connaître est parfaitement trompeur, j'en suis persuadé. Il n'est que le calme avant la tempête. Mes amis, nous n'avons jamais été si près du but. Alors mobilisation générale, le compte à rebours a démarré. Vive la République et vive la France.
Même tonalité du côté des militants, un mot d'ordre, jusqu'ici tout va bien.
L'électorat se mobilise très facilement pour les élections présidentielles. Ça déjà, faut le savoir.
Les gens resteront fidèles aux principes fondamentaux du Rassemblement National et on a notre tête Marine Le Pen. Quand on a un chef, on le suit les yeux fermés.
Et la chef tentera dans son discours de liquider la séquence avant la trêve de l'été.
Merci Marie Mollet du service politique d'RTL. Du côté des Républicains, la semaine sera importante également. Mardi, le parti se retrouve pour tenter de se mettre d'accord sur la manière de départager les prétendants à la présidentielle et donc le moyen in fine de désigner leur candidat. Jean Leonetti, missionné pour cela, propose et va présenter son idée d'une primaire ouverte, même si jusqu'à maintenant, Xavier Bertrand, récent vainqueur dans les Hauts-de-France, a dit qu'il ne comptait pas y participer. Jean Leonetti qui précise que la primaire sera ouverte, certes, mais qu'Éric Zemmour, par exemple, ne pourra pas y concourir. Et puis notez-le, c'est François Bayrou, le patron du Modem, qui est l'invité du grand jury RTL, Le Figaro, LCI, tout à l'heure à partir de midi avec Benjamin Sportouche. Allez, les vacances maintenant, ce petit parfum qui fait du bien après la route. Hier, on était ensemble pour beaucoup d'entre vous. C'est l'heure de la détente. Nicolas Bobby est allé à l'embarcadère Port Maria à Quiberon. C'est à cet endroit qu'on prend le bateau pour aller précisément à Belle-Île-en-Mer. Demandez le programme.
C'est vrai que l'année a été très fatigante et que là, on cherche juste à partir en vacances et passer du bon temps avec nos enfants. Se retrouver et vraiment décompresser.
Dormir dans la piscine.
Ah, dormir dans la piscine.
Bon, un drôle de programme notre fille, hein, ouais. Mais bon. Prendre l'air et puis éviter un peu cette ambiance de masque, tout ça, quoi.
C'est pour respirer, c'est pour rester sur une île. Un peu d'isolement dans la nature.
Me reposer. Faire un peu de golf, faire un peu de bateau. Comme on dit, ici on est en France et là-bas on est à Belle-Île.
Ah non, la Covid, on n'y pense même pas. Nous. C'est pour souffler, profiter de nos vacances et parce qu'on adore la Bretagne et Belle-Île.
Et partir loin du boulot.
Belle-Île en mer, Marie-Galante, Saint-Vincent.
Et voilà pour Belle-Île et ailleurs, ce sera la grisaille et la pluie avec quelques éclaircies seulement du sud-ouest à l'Alsace, sur l'île de France également. En tout cas, dans la matinée, il fera à peu près beau du côté de la Méditerranée également. Risque d'averses orageuses au fil de la journée dans le nord, à l'est, dans le centre du pays également. Il va faire ce matin entre 17 et 24 degrés du nord au sud et cet après-midi de 19 à 26 degrés partout en France. Les courses, elles ont lieu à Saint-Cloud aujourd'hui à 15h15. Voici les pronostics de Dominique Cordier, le 8, l'As, le 10, le 5, le 2, le 7 et le 15, la dernière minute étant le 10. Voilà pour les infos, la météo et les courses. On va faire une petite pause, Béa, la pub, et dans un instant, l'éphéméride du jour. Nous sommes, rappelons-le, le dimanche 4 juillet 2021. À tout de suite.
Réveillez-vous avec Olivier Bois sur RTL. RTL Petit Matin Week-end, 5h-7h,
Olivier Bois.
Et merci d'être avec nous sur RTL. Il est 5h10 ce matin. On est ravis de passer ce tout début de matinée avec vous. Dimanche 4 juillet 2021, l'éphéméride du jour. D'abord, on va souhaiter aujourd'hui un bon anniversaire à Tahar Rahim, l'acteur français révélé par ce film incroyable Le Prophète de Jacques Audiard. C'était il y a quelques années. Tahar Rahim qui a donné vraiment un côté international à sa carrière avec notamment cette série en ce moment sur Netflix, Le Serpent. Faites-nous écouter un extrait, Béa.
Êtes-vous un homme dangereux?
Il faudrait déjà savoir si j'ai commis un meurtre.
Avez-vous commis un meurtre?
Les tribunaux ont décidé, non.
Peut-être, mais vous ne répondez pas à ma question.
Mais c'est ma réponse.
Tahar Rahim qui joue en l'occurrence un tueur en série, c'est ça Béa, vous êtes la seule à avoir vu la série dans ce studio. Racontez-nous un peu, il paraît qu'il est méconnaissable d'abord.
Alors il est méconnaissable, c'est hyper prenant en fait, ouais. C'est quelqu'un qui extorque en fait les gens.
Dans les années 70 en
ouais,
Asie, c'est
ouais,
ça.
Oui, exactement, il y a une super bande originale aussi et vraiment je conseille Le Serpent à tout le monde.
Bon bah voilà le conseil cinéma ou série en tout cas de Béa avec Le Serpent de Tahar Rahim. Bon anniversaire à Henri Lecomte également, le tennisman français qui... ça vous dit quelque chose ça ou pas, Oriane? Pourquoi on passe à Gafrica?
Parce qu'Henri Lecomte.
Ouais.
La victoire, quelque
la
chose
victoire
comme
de Coupe Davis en 1991. C'était Yannick Noah qui était le sélectionneur. Henri Lecomte avait battu Pete Sampras. C'est un des très grands moments de l'histoire du sport français. Et donc cette chanson avait été chantée par Yannick Noah sur le terrain. On s'en souvient.
Moi, je m'en souviens.
Vous en souvenez?
J'étais pas né.
Allez, bon anniversaire Henri Lecomte qui a 58 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à Victoria Abril. Son film, l'un des plus célèbres, Gazon maudit, écoutez.
Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal.
Qu'est-ce qui lui arrive encore à celle-là?
Elle va coucher sur le trottoir. Viens m'aider.
Qu'est-ce qu'on va faire?
On va la mettre là-bas sur le banc. Viens par ici. Non, par ici. Prends-la par les épaules. Prends le sac, les épaules, venga.
Oh, putain, elle pèse une tonne.
Le trio. Oh,
c'est ton enfant là-dedans. Voilà. Va vite appeler une ambulance. Police et tout.
Le trio, le triangle amoureux entre Alain Chabat, Victoria Abril et Josiane Balasco dans ce film Gazon maudit. Bon anniversaire aujourd'hui à Victoria Abril. Oriane, que s'est-il passé un 4 juillet, d'abord l'un des plus grands événements du monde, c'est l'indépendance
des États-Unis. Et je me suis concentrée sur ça aujourd'hui.
Ah voilà, l'hymne américain.
Je vais essayer de faire court. La déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, pour faire simple, c'est juste un gros texte politique par lequel les 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord ont fait une sécession de la Grande-Bretagne pour former les États-Unis d'Amérique. Donc ça se découpe en trois parties. Un préambule qui énumère les droits fondamentaux, une liste des griffes pour les atteintes britanniques à ses droits et la conclusion qui s'impose. La rupture avec la Grande-Bretagne et la création des 13 États.
Et ben voilà.
Voilà.
Tout était clair. C'est tout, non ? Vous avez encore...
Juste une petite précision. C'est l'idée centrale de ce texte, c'est la liberté. Et c'est la première fois que les idées des philosophes des Lumières sont mises en application. Il ne s'agit plus des libertés collectives des époques précédentes, mais des libertés individuelles qui sont proclamées haut et fort. Donc la déclaration, en gros, c'est un texte universel qui pose des droits. Tous les hommes sont créés égaux. Et si l'égalité est proclamée, elle est uniquement valable seulement pour les hommes blancs, parce que l'esclavage n'est pas aboli.
Il y avait encore du travail pour l'égalité, même en ce grand jour, pour la démocratie. Merci Oriane, il s'est passé autre chose un 4 juillet. Vous avez quelque chose dans votre cahier d'écolière encore, non ?
Ouais, j'ai lors d'une balade sur la Tamise, Lewis Carroll qui imagine les aventures d'Alice au Pays des Merveilles pour distraire ses sœurs et Alice Delline.
Eh ben, merci beaucoup Oriane. À propos de la déclaration d'indépendance des États-Unis, on y reviendra avec Jean-Baptiste Giraud tout à l'heure après 6h. Ce sera
ça tombe bien.
La question au saut du lit pour avoir encore plus de détails, même si votre exposé était parfaitement complet.
Merci.
C'est la Saint-Florent aujourd'hui. Bonne fête à tous les Florents. Et le dicton du jour à la Saint-Florent, il est bien de semer le froment sans perdre de temps. Voilà, vous en faites ce que vous voulez de ce dicton. Il est 5h14 sur RTL. On va écouter quoi, Béa ? Diana Ross ?
Tout à fait.
Thank you. Allez-y. La nouvelle chanson de Diana Ross, elle a 77 ans, vous me disiez, Béa, c'est incroyable cette...
Incroyable, on ne dirait pas. Hein, quand
cette
on
voix et cette pêche qu'elle a, en tout cas communicative, à 5h18 sur RTL. Merci d'être avec nous. Oriane, est-ce qu'on a des petits messages déjà sur Facebook ? Bon, je crois que oui.
Ouais, on a quelques-uns. On a Isabelle qui nous dit bonjour et bonne matinée, la belle équipe des petits matins. Isabelle de Sainte, 18 degrés, fan inconditionnel de RTL.
Ah, merci Isabelle, ça fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Franchement, pour nous en studio, on est ravis d'avoir des petits messages comme ça. Continuez à nous écrire pour nous dire, bah oui, quel temps il fait chez vous, quelle est l'humeur du jour. Hein, le temps il sera un peu pluvieux, mais bon, on va quand même essayer de rester de bonne humeur. On va faire une pause, même pas de pause. On va aller dire bonjour à la France et parler bagarre avec un combattant de MMA et cet événement à venir vendredi prochain.
RTL Petit Matin Week-end, Olivier Bois.
Bonjour la France, on va parler maintenant d'un événement qui va se produire vendredi prochain, 9 juillet, pour la première fois en France. Il va y avoir plusieurs combats professionnels de MMA, ce nouvel art martial qui s'est imposé, qui est légal en France depuis un an. Il va y avoir donc plusieurs combats devant du public et on accueille justement précisément l'un de ces combattants, Gaël Grimaud. Bonjour Gaël.
Bonjour Olivier.
Merci d'être avec nous sur RTL ce matin. Je disais, c'est un événement, c'est une discipline qu'on connaît encore mal et pour le coup, c'est la première fois qu'il y a une grosse session de combat dans un lieu en plus assez prestigieux et important.
Oui, c'est vrai que c'est une discipline qui n'était pas légalisée depuis l'année dernière. Donc, l'année dernière, le gouvernement a statué sur une légalisation avec la mise en place d'une fédération qui travaille sur l'entrée du MMA en France depuis plusieurs années déjà. Et donc, c'est vrai que c'est un sport qui est tout nouveau en France et qui commence seulement à se structurer, à avoir de la médiatisation comme aujourd'hui.
Donc vous allez combattre, vous, vendredi prochain, ce sera un vrai championnat du monde, un combat professionnel avec à la clé un titre.
Oui, à la clé un titre, c'est Hexagone MMA. Aujourd'hui, on a une organisation française qui s'est professionnalisée, qui a mis les moyens pour créer un championnat du monde. C'est un titre de champion du monde, hein, avec une ceinture à la clé. Et voilà, donc c'est vendredi prochain, pardon.
Et rappelez-nous, donc on connaît mal ce sport encore, en tout cas le grand public le connaît mal. Ce sont les règles qui vont s'appliquer en France et qui vont s'appliquer vendredi prochain. Ce sont les mêmes règles qu'on voit pour le coup dans les grands combats médiatisés qu'on voit dans le monde. C'est-à-dire il y a cette fameuse cage et ensuite combien est-ce qu'il y a de rounds, etc.
Ouais, pour expliquer le MMA, en fait, le MMA c'est constitué de trois phases. La première phase, c'est la phase qu'on connaît tous, pied-point, boxe anglaise, boxe karaté, taekwondo et tous les sports de percussion. La deuxième phase, c'est la lutte et le judo. Et la troisième phase, c'est le travail au sol, lutte, judo, jiu-jitsu brésilien au sol. Donc ces trois phases-là sont combinées dans le MMA. Vendredi, on aura pour les ceintures mondiales, on aura trois rounds de 5 minutes. Oui. C'est un round, vous avez bien entendu, ça fait 5 minutes de combat. Oui. Avec
Dans cette cage ou la configuration sera différente en France ?
Dans une cage, oui.
Dans une cage aussi.
Dans cette cage. C'est vrai que ça a été décrié, l'utilisation d'une cage dans ce sport-là en Europe. Mais c'est vrai que la cage pour les combattants de MMA assure la sécurité des combattants parce que comme avec les phases de lutte, sur un ring, on peut passer à travers avec l'opposition et tomber par-dessus. Et là, bon, avec la cage, ça nous permet de garder les combattants en sécurité dans la cage. Et avec un environnement un peu plus sain qu'un ring pour cette discipline.
Pour vous, vous avez levé les doutes qui se sont exprimés, les critiques qui trouvaient ce sport trop violent, les gants, on le rappelle, qui sont évidemment moins amortis que les gants de boxe. Donc il y a des blessures plus impressionnantes et plus visuelles en MMA qu'en boxe en boxe anglaise, par exemple. Vous avez levé les inquiétudes.
Il y aura toujours des doutes. Ouais. Il y aura toujours des inquiétudes. Vous savez, c'est un sport de combat, comme dans la boxe anglaise ou la boxe. Pieds-points ou dans tous les sports de combat, il y a toujours des risques. Il ne faut pas oublier que c'est un sport, c'est des sports de combat. Quoi. En fait, comme son nom l'indique, on ne va pas expliquer les dangers, les risques. Il y aura toujours des doutes, mais justement, le travail qui est fait par la fédération et par tous les acteurs qui ont œuvré pour que le MMA arrive en France, c'est aujourd'hui l'occasion de montrer le sérieux du travail, le professionnalisme qu'on va mettre dans une préparation. Moi, sur ma préparation, je montre sur les réseaux, etc., comment je me prépare, avec qui je me prépare. Et ceux qui me suivent voient.
On peut vous retrouver sur Instagram pour suivre votre entraînement, des vidéos, etc.
Oui, sur mon Instagram Gaël Grimaud. Donc, je mets toute la préparation et puis je mets aussi la personne qui m'aide, comme les kinés, les préparateurs physiques, les coachs, les gens qui œuvrent pour que je sois en bonne santé.
Et pour montrer que c'est un sport qui est professionnel, quoi, qui est très encadré. On ne fait pas n'importe quoi avec ce sport. C'est ça l'objectif pour vous aujourd'hui
montrer toujours. Que c'est pas le sport de combat ou le sport le MMA, ce n'est
sauvage,
pas
quoi.
Un jeu, c'est il faut se professionnaliser pour déjà préserver son intégrité physique et puis pour arriver au meilleur niveau possible. Dans un autre cas, c'est pas possible. Si on n'est pas professionnel dans sa conscience et dans sa pratique, c'est impossible d'arriver à un haut niveau, quoi.
Est-ce qu'il y aura une saison de MMA? Est-ce qu'on en est où de l'organisation future de ce sport en France?
Donc, vous savez, c'est la fédération anglaise de boxe qui a pour mission d'encadrer le MMA. Donc une fédération dans une fédération, c'est-à-dire que la fédération de MMA aujourd'hui va mettre en place le MMA dans toute sa globalité, c'est-à-dire dans l'éducation, c'est-à-dire dans la santé et aussi de façon sportive. Donc des saisons sportives, des saisons de compétition pour les amateurs et des conditions pour des organisateurs professionnels. Donc il y aura tout un monde qui va se créer autour de ça et tout un univers avec des dates et des chiffres.
Merci beaucoup. Merci Gaël Grimaud d'avoir été avec nous sur RTL. Donc je rappelle que vous êtes combattant professionnel de MMA, que vous serez dans l'arène vendredi prochain à la Défense Arena pour un titre mondial pour cette discipline qui a l'espoir en tout cas de s'imposer en France. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée à vous.
Merci encore Olivier.
Ça, j'ai aussi sur Facebook. Coucou Olivier, Oriane, Béatrice, elle est à Aubigny-sur-Nère, 15 degrés, ciel chargé, la pluie elle aussi. Mais heureusement, nous dit Marie-Josée, beaucoup de sport à la télé, à la radio. RTL avec Christophe et Laurent, Christophe Paco et Laurent Jalabert, évidemment, qu'on embrasse. On pense à eux sur la route du Tour et on les retrouve surtout ce soir à 18h30 pour le Club Jalabert. Il est 5h30 sur RTL, merci d'être avec nous.
5h, 7h,
RTL Petit Matin,
Olivier Bois.
Et l'essentiel de l'actualité de ce dimanche matin, eh bien c'est cet incendie qui est fixé à côté de Narbonne. 250 hectares sont partis en fumée. Hier, les résidents du camping voisin, ils étaient 140 à avoir dû être évacués. Ils ont pu regagner leur tente ou leur mobile home. Aucune habitation n'a été détruite et aucun blessé n'a été recensé. Dans le journal du dimanche, le monsieur vaccin du gouvernement, Alain Fischer, met en garde ceux qui attendent pour se faire vacciner commettent une erreur. Tout se joue, selon lui, dans les 15 jours à venir si on veut éviter une troisième vague à la rentrée. Et il rappelle d'ailleurs que contre le variant Delta ou le variant indien, eh bien une vaccination complète à deux doses, deux injections, protège selon lui à 90%. Et puis un autre débat qui est sur la table d'ailleurs à propos de la vaccination. Faudra-t-il organiser une vaccination directement au milieu scolaire au premier trimestre? L'idée est proposée par un groupe de travail du ministère de la Santé. Pour le moment, la question n'est pas encore tranchée. L'actualité l'actualité politique, c'est ce congrès du Rassemblement National à Perpignan. Marine Le Pen va prononcer un discours cet après-midi à 15h. Discours très attendu après la claque qu'a reçue le parti. Effectivement, aucune région gagnée pendant les dernières élections, même si hier, donc les dirigeants du parti, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal, ont serré les coudes derrière leur patronne. Et puis François Bayrou sera l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI, le patron du Modem, qui sera donc avec nous sur RTL à partir de midi. Le sport, effectivement, programme chargé d'abord sur le Tour de France, est encore de la montagne. La grande étape des Alpes aujourd'hui entre Cluses et Tignes, arrivée au sommet d'un col de 21 km où les favoris ont donc encore une occasion de s'expliquer. Mais la question est posée ce matin, est-ce que tout est joué d'ores et déjà, puisque Tadej Pogačar, le vainqueur sortant, a écrasé la concurrence hier. Il a attaqué à 30 km de l'arrivée et a laissé ses principaux rivaux très très loin, à commencer par Julien Alaphilippe, qui est à 19 minutes du leader actuellement et qui va se consacrer maintenant à gagner éventuellement des étapes. Le football, on connaît les demi-finales de l'Euro, Italie-Espagne, donc mardi 21h à Wembley, et donc après les résultats d'hier soir, Danemark-Angleterre, ce sera la demi-finale de mercredi 21h, toujours à Londres et à Wembley. Hier, les Anglais ont battu l'Ukraine 4-0 et le Danemark s'est imposé 2-1 face à la République tchèque. Toujours en sport, la Formule 1, c'est à 15h cet après-midi le départ du Grand Prix d'Autriche. Max Verstappen sur sa Red Bull est en pole position. Lewis Hamilton est quatrième sur la grille. Le Français Pierre Gasly est sixième. La météo, ce sera donc, on l'entend, on le lit sur vos messages SMS et Facebook, effectivement, de la grisaille et de la pluie pour un très grand nombre d'entre vous aujourd'hui. Donc il y aura quelques éclaircies tout de même du sud-ouest à l'Alsace sur l'île de France ce matin, mais ensuite le temps va verser à l'orage sur quasiment tout le territoire, dans le nord en tout cas, dans l'est, dans le centre. Et il fait ce matin entre 17 et 24 degrés du nord au sud, entre 19 et 26 degrés attendu cet après-midi. Et puis les courses à Saint-Cloud tout à l'heure à 15h15, voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, l'As, le 10, le 5, le 2, le 7, et le 15, la dernière minute étant le 10. On va faire une petite pause, courte pause sur RTL. On se retrouve dans 30 secondes avec les clics à la une d'Oriane et puis une revue de presse pour voir de quoi parlent nos journaux ce matin. A tout de suite sur RTL.
Réveillez-vous avec Olivier Bois sur RTL. RTL, clic à la une.
Alors, les clics à la une, 5h33, 5h34 sur RTL. Oriane, qu'est-ce qui a marché hier sur le site d'RTL.fr ?
Eh bien, écoutez, le coronavirus, la question que vous vous posez, c'est la France a-t-elle les armes pour éviter une quatrième vague ?
Ah là,
c'est pas très joyeux.
En tout cas, on en parle ce matin dans la presse. Effectivement, on vient de l'évoquer avec le monsieur vaccin du gouvernement, Alain Fischer. Pour lui, l'arme anti-coronavirus, c'est la vaccination à deux doses et elle permet, selon lui, de nous protéger contre une éventuelle deuxième dose, même si la campagne de vaccination faiblit en ce moment. Effectivement, tout le monde en parle. Deuxième article qui a très bien marché.
Deuxième article, c'est l'invité d'hier d'RTL Weekend, Agnès Pannier-Runacher, avec Fabriqué en France à l'Elysée.
La ministre de l'Industrie.
Ça vous a interpellé.
Eh ben, très bien. Voilà les deux articles. Un sujet sérieux qui a marché aussi sur RTL. Dans le Parisien ce matin, figurez-vous que nos confrères du Parisien reviennent sur l'élimination des Bleus en huitième de finale de l'Euro, du rêve à la chute. Voilà ce qui est écrit en une donc du journal aujourd'hui en France. Alors il n'y a pas de scoop, mais effectivement cette remise en perspective, tous les petits couacs qui ont fait dérégler la machine, les petits conflits d'ego entre Mbappé, Giroud, savoir qui tire les pénaltys entre Griezmann, Benzema et Mbappé. Tout ce qui se gère normalement dans une équipe quand on gagne, mais qui sont pointés du doigt ensuite, effectivement, quand on perd un match. Le journal qui revient sur le fiasco de la fin du match France-Suisse, comment ce match nous a échappé. Pogba qui trouve que la France défend trop, qui le reproche un petit peu à son coach Didier Deschamps. Et puis, cette fameuse altercation entre la mère d'Adrien Rabiot, Véronique, dans le stade avec le père d'Mbappé, à qui elle aurait dit « Vous allez sermonner votre fils, j'espère ». C'est ce qu'elle aurait lâché après le pénalty raté. Voilà, vous lirez un peu l'histoire ratée de cet euro pour les Bleus dans le journal aujourd'hui en France, Le Parisien. Dans le journal du dimanche, La Politique et ce dossier sur la droite qui va donc tenter de se choisir un candidat à partir de mardi. Ils vont préconiser une primaire ouverte, même si ça semble compliqué à ce stade, puisque Xavier Bertrand a déjà dit, celui qui vient de gagner la région de France, a déjà dit qu'il ne participerait pas à cette primaire ouverte. Et puis d'un mot, dans le journal L'Équipe, cette espèce de malédiction du cyclisme, effectivement, après le coup de force, on en a beaucoup parlé déjà ce matin, de Tadej Pogacar, hein, qui a laissé tous ses concurrents très loin hier. Il a attaqué à 30 km de l'arrivée, c'est du panache. Tout le monde réclame, les spectateurs, les fans de cyclisme, tout le monde attend parfois que les principaux favoris se découvrent tôt au cours d'une étape. Mais quand ça marche trop bien et quand le leader devient un peu trop facile, eh bien, il y a toujours ce doute sur le dopage. Donc voilà de quoi nous parle L'Équipe aujourd'hui, qui s'interroge donc sur la suite du suspense dans ce Tour de France. Voilà pour la revue de presse. On va écouter maintenant Maroun. Vous partez au boulot, vous, petit café, vous nous dites avant de partir travailler, le ciel est encore trop noir pour savoir la météo. À Juan-les-Pins, on est ravis d'être avec vous, Marie-Thérèse. Bon réveil, bon café et bonne journée au boulot.
Olivier Bois,
RTL Petit Matin Week-end.
Comparaison de saison de ce dimanche 4 juillet. On va parler de deux fruits qu'on est très heureux de retrouver tous les ans quand ils sont de saison. On va parler des abricots et des pêches avec un spécialiste du genre, avec Patrice Vulpian. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors vous êtes évidemment producteur de pêche, producteur d'abricots dans les Bouches-du-Rhône, à Saint-Martin-de-Crau précisément. Je ne fais pas d'erreur?
C'est bien ça.
Hein, c'est bien ça. Est-ce que vous me permettez de commencer par une question très polémique, entre guillemets? Est-ce que vous, vous mangez la pêche avec la peau?
Alors, je mange la nectarine avec la peau tout le temps. Oui. Et la pêche, il y a différents types de pêche. Il y en a qui ont une peau plus fine que d'autres. Donc, quand elle est fine, ça va. Sinon, on peut l'éplucher quand il y a beaucoup de duvet, on va dire.
Pour l'abricot, il n'y a pas de débat, au moins.
Ah non, l'abricot, c'est sûr qu'on n'épluche pas. Non. Ça serait compliqué, oui.
Merci pour cette première mise au point très importante. Donc, vous produisez combien de tonnes d'abricots de pêche tous les ans et comment se passe le début de saison pour vous? D'ailleurs, c'est quand le vrai début de saison pour la pêche et l'abricot?
Alors, le début de saison pour l'abricot, c'est autour du 15 mai. Donc là, on est plutôt vraiment en milieu de saison. Pour la pêche, les premiers ramassages se font début juin. Et il y a de la pêche et de la nectarine jusqu'au 15 septembre, voire fin septembre.
Et vous, quand vous dites que vous êtes producteur de pêche, vous faites aussi des brugnons, des nectarines ou vous faites uniquement des pêches?
Si vous voulez, quand je parle de pêche, en fait c'est pêche et nectarine. Il y a les quatre couleurs, pêche jaune, pêche blanche, nectarine jaune, nectarine blanche. Donc en fait, la saison elle est équilibrée sur ces quatre couleurs. Il faut que moi, mon objectif, c'est que j'ai en permanence les quatre couleurs disponibles pour satisfaire mes clients.
Et alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître, nous, un bon fruit, un bon abricot, si on prend l'exemple de l'abricot, quand il est vraiment à maturité sur les étals de nos marchés? À quoi est-ce qu'il faut faire attention?
Déjà, il faut qu'il ait une belle couleur. Donc, une couleur bien orange garantit un degré de maturité minimum. Bon, voilà. Après, c'est difficile d'arriver comme ça au coup de voir les choses. Il faut surtout se fier peut-être à la qualité de votre fournisseur, qui lui-même a peut-être identifié son fournisseur principal avec qui il travaille depuis longtemps et avec lesquels il peut y avoir une relation de confiance sur la qualité qui permet. Donc, en fait, si vous avez un bon vendeur, quel qu'il soit, hein, grande surface ou petit magasin de quartier, si le monsieur est un professionnel, il va arriver avec ses fournisseurs à trouver des bons fruits.
Avec les fruits qu'il aura choisis, qui auront été cueillis au bon moment, c'est ça le secret pour avoir des...
Si vous voulez, nous, on a des manières plus techniques de voir les choses. Par exemple, il y a une technique sur l'abricot qui consiste à inverser les deux hémisphères de l'abricot. Et quand on arrive à les détacher avec une friction forte, oui, ça veut dire que c'est bon, il faut ramasser. Mais bon, on peut aussi goûter. Hein. Moi, je déclenche les ramassages en goûtant sur les arbres et en trouvant suffisamment d'abricots qui sont... Alors ça, c'est la manière, on va dire, traditionnelle, instinctive. Et après, on a des appareils pour mesurer le taux de sucre et également la fermeté. Donc avec tout ça, si on veut arriver assez proche à la maturité, c'est possible. Bon, après, si c'est trop proche, c'est trop tard, hein,
oui,
bien sûr.
Oui, le temps que ça arrive ensuite dans les magasins. Vous nous faites l'amitié d'être sur RTL ce matin et vraiment, on vous remercie, alors que on va quand même en parler. Pour vous, c'est une saison absolument catastrophique et vous avez vécu évidemment les intempéries. On en a beaucoup parlé sur l'antenne d'RTL à l'époque. Les intempéries du printemps, ça a été une vraie catastrophe pour vous.
En fait, c'est un seul jour, hein, c'est le 8 avril où tout a été sur toute la France. Hein, et donc, moi, j'ai perdu effectivement effectivement 100% de ma production d'abricots et 80% de ma production de pêche. Donc aujourd'hui, cette année, je n'aurai que 20% de la production. Donc on a un petit peu de pêche parce que j'ai une partie de la propriété où ça n'a pas trop gelé, on va dire, mais il y a une autre partie où ça a vraiment gelé à 100%. Donc effectivement, une année extrêmement difficile.
Comment vous allez vous en sortir?
Alors d'abord dire qu'une année que je n'ai jamais connue en quarantaine de carrière, donc c'est quand même exceptionnel. Et comment je vais m'en sortir? Évidemment, on a malheureusement débauché énormément de monde, hein, puisqu'on a quand même beaucoup de salariés en été. Et de ceux qui étaient là, il y en a une partie qu'on a débauché. Donc déjà, on fait des économies de main-d'œuvre très importantes, bien sûr. On va restreindre tous les frais possibles, faire aucun investissement. Et espérer que les indemnisations qui vont venir au travers des calamités agricoles seront suffisamment rapides et conséquentes pour, on va dire, amortir un petit peu le choc et que même si évidemment on va pas faire de bénéfices cette année, ça c'est certain, mais que le déficit il soit pas abyssal.
Est-ce que c'est pour ça que les prix sont un peu plus hauts? C'est l'impression qui ressort là ces derniers temps.
C'est sûr, c'est certain. La production d'abricots, il y en a moins de la moitié. La production de pêche, peut-être, il y a 50 à 60% de la production normale, 60 peut-être. Donc évidemment, et comme en plus nos voisins européens sont dans le même cas, l'Italie et l'Espagne également ont eu des très très grosses pertes. Et donc ce qui est rare est cher, et voilà. Et en même temps, si vous voulez, que ça soit un petit peu cher cette année de manière exceptionnelle, ça permet aux producteurs qui ont une petite récolte d'arriver à... Ça les aidera.
C'est aussi un geste de solidarité d'accepter de payer le prix de fruits français.
Pour cette année exceptionnelle.
Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Patrice Vulpian, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes producteur de pêche et d'abricots dans les Bouches-du-Rhône. Bonne journée à vous.
Merci.
RTL Petit Matin Week-end.
Olivier Bois.
Et un rendez-vous hein, dans les petits matins d'RTL en ce dimanche chez le Paco Mago, évidemment, tout à l'heure vers 6h40 avec, vous savez, ce cadeau exceptionnel aujourd'hui. On va faire un questionnaire d'ailleurs spécial Tour de France en l'hommage évidemment à Christophe Paco. Et le cadeau aujourd'hui encore, c'est ce week-end en Corse, deux jours, 19-21 juillet, pour aller au festival Corse en Seine, tout frais payé par RTL, l'avion, aller-retour Paris-Calvi, deux nuits dans le Grand Hôtel. À Calvi, voilà ce cadeau exceptionnel sur RTL ce matin. Vous nous appelez au 3210, vous avez Oriane au téléphone qui vous attend. Vous vous inscrivez, on joue tout à l'heure au Paco Mago avec un questionnaire spécial Tour de France. Vous verrez, c'est facile, vous inquiétez pas. On va faire une petite pause et dans un instant, on retrouve la maîtresse d'école d'RTL, Lisa Kamen. À tout de suite sur RTL.
RTL Petit Matin Week-end.
Olivier Bois.
Et c'est l'heure à nouveau ce matin de retrouver notre maîtresse d'école, la maîtresse d'RTL. Bonjour Lisa Kamen.
Bonjour Olivier.
Allez, on va parler vacances avec vous ce matin Lisa, c'est vrai?
Bah oui, ça sent les vacances. Oui. Puis pour cette petite dernière chronique d'avant l'été.
Dimanche 4 juillet, vous vouliez nous faire chanter une chanson Lisa, mais je ne l'ai pas trouvée dans la base. Est-ce que vous pouvez nous la chanter? Niagara, l'amour à la plage, comment ça fait Lisa?
Vous exagérez quand même.
Allez-y. Hein,
je pense que ça se trouve dans une base. J'y vais.
Allez, on vous écoute.
C'est l'amour à la plage. Ah ou cha cha cha, c'est l'amour à la plage. Je ne connais que le refrain.
Allons-y.
Encore. C'est l'amour
à pas mal. Ah, vous étiez parfaitement juste. Hein. Vous chantez beaucoup mieux Christophe Paco, Lisa, en fait. On s'en rend compte ce matin.
Oh, moi, je veux pas critiquer le chef quand il est pas là.
En tout cas, ça sent les vacances, cette musique, Lisa, c'est sûr.
Bon, alors pour cette petite chronique, je vous propose de nous intéresser au champ lexical de l'été et des vacances en particulier. Alors, commençons par le plus important, le choix crucial, le choix du bon bikini. Mais savez-vous d'où vient ce mot, Olivier?
Non, je sais pas du tout. Dites-moi. De l'atoll du Pacifique?
Eh oui, il y a un atoll dans le Pacifique où les Américains ont fait exploser la première bombe atomique. Ça vient de cet atoll. Là, le nom a été déposé en 1946 par un Français, Cocorico, Louis Réard, ingénieur automobile, donc il n'y avait rien à voir avec les bikinis.
Qui était sorti un peu de sa spécialité. Oui.
C'est ça. On était sans doute passionnés d'anatomie féminine, d'où l'une des accroches publicitaires, le bikini, première bombe anatomique.
Ah, excellent jeu de mots, première bombe anatomique, très bien.
Voilà, dans la série vêtements d'été, on a la tongue aussi. Cette sandale, vous savez, qu'on fait passer entre le gros orteil et le deuxième doigt avec une sorte de Y, là. Ouais,
qui fait mal, hein.
Bon, ça dépend, il faut bien les choisir. Ah, oui, ouais. on ira chercher des tongs ensemble. Bon, là, c'est plus simple. Ça vient de sang, en anglais, qui veut dire lanière. Alors, il y a évidemment le Bermuda.
Qui vient de l'archipel des Bermudes, bien
et
sûr.
Oui, bingo, oui. Vous êtes trop fort. Ah. Alors, c'est des îles découvertes en 1505 par un Juan de Bermudez, un navigateur espagnol. Vous avez vu l'accent ?
Excellent, oui. Chanteuse bilingue, bon. C'est magnifique.
Ah ouais, la classe. Avec tout ça, on est paré pour l'apéro, n'est-ce pas, Olivier ?
Oui, l'apéro en bikini, effectivement. Et l'apéro, justement, ça vient d'où l'apéro ? Si important
alors,
l'été aussi.
L'apéro, alors vous n'étiez pas là, c'est une petite leçon que j'avais faite avec Christophe, mais l'apéro est une apocope, c'est-à-dire un mot qui est coupé au début. Ah. C'est une apocope de apéritif. Et apéritif, ça veut dire qui ouvre l'appétit, ça vient du latin apérire. Apocope, vous savez, c'est quand on garde que le début d'un mot.
Non, je savais pas.
En général, par exemple, quand je dis ciné au lieu de cinéma.
D'accord, ça c'est
auto au lieu d'automobile.
Une apocope, c'est féminin.
Voilà, dans la série mot d'été, il y a le mot transat qui est aussi une apocope qui vient des transatlantiques. Vous savez, ces chaises longues qu'il y avait sur les beaux paquebots pour les gens qui partaient pour l'Amérique et sur lesquels on pouvait bronzer.
Et qui est une course de bateau maintenant.
Aussi, oui, tout à fait.
Et le mot bronzer alors, ça vient d'où, bronzer?
Bon, ça vient du bronze, hein, c'est plus simple. Plus clair, mais alors, au départ, on bronzait les fusils, c'est-à-dire qu'on leur donnait, en les brûlant, on leur donnait une couleur bleu foncé, bleuâtre. Hein.
D'accord.
Et par extension, c'est aller donner à la peau une couleur d'un brun foncé qu'on a comparé à celle du bronze. Bon, alors, après tous ces excès de boissons et de soleil, on va faire un peu de sport.
Un peu de sport l'été. Et là encore, vous allez nous donner l'origine du mot sport.
Alors, le sport, c'est le contraire de apéro. C'est pas une apocope, c'est une aphérèse. Et c'est-à-dire qu'on a gardé que la fin d'un mot, qui est un mot anglais. Et ce mot, c'était disport, mais ça vient de l'ancien français. Donc, l'anglais avait piqué le mot au latin, etc. Et en fait, ça vient de desport, et qui voulait dire juste, comme déporter, en fait, se déporter son attention, changer de centre d'intérêt.
Ah,
et c'était au sens de plaisir, divertissement.
Changer d'idée. Ça change.
Exactement.
Les idées.
D'accord. Exactement.
Merci beaucoup, Lisa Kamen. À bientôt. Bon été, Lisa.
À vous aussi.
Sur RTL, dans les RTL. Petit matin, week-end, il est 5h54 et on va enfiler le short.
RTL, les sportifs du week-end.
Allez, on va parler sport ce matin sur RTL. Nous sommes le premier week-end du mois de juillet. Les vacances ont commencé pour certains, elles approchent pour d'autres. On est avec Christophe Brun, le coach d'RTL. Bonjour Christophe.
Bonjour Olivier, bonjour
à
tous.
Merci d'être avec nous ce matin parce qu'on est quand même un certain nombre à se demander comment est-ce qu'on fait du sport l'été, après une année qui a été plus ou moins fatigante. À quoi il faut faire attention ? Comment on fait de l'exercice physique du sport quand on est en vacances ?
Alors, je pense que c'est le moment, pour le coup. On a dû faire du sport depuis quasiment un an et demi en étant enfermé à la maison, oui, sans trop bouger, sans trop sortir. C'est l'été, les vacances arrivent. J'imagine qu'une grande partie des gens qui nous écoutent vont certainement prendre quelques jours entre début juillet et fin août. Profiter de nos chemins, profiter de nos forêts, profiter de nos bords de mer, profiter de l'ensemble des installations et des infrastructures qui existent en France aujourd'hui pour se balader, pour être dehors. Voilà, j'ai moi-même, le week-end dernier, Olivier, pris un morceau de la fameuse Vélodyssée, cette piste cyclable qui longe tout le littoral atlantique, quasiment de la Bretagne jusqu'au Pays Basque.
Ah oui.
C'est génial, j'ai pas croisé une voiture, on a fait un bon morceau sur deux jours, c'était très sympa. Voilà, la France, pour ça, est hyper bien équipée. Aller dehors, participer à des petits challenges. J'ai vu des gens faire une course de roller skate, c'était assez drôle avec des enfants, enfin c'était super sympa. C'est le moment d'aller dehors. Et en allant dehors, fondamentalement, on peut quasiment faire du sport sans s'en rendre compte.
Exactement.
On peut marcher, on peut trottiner si on est bien, on peut pédaler, on peut faire ça plusieurs fois dans la journée, puisqu'on est a priori en congé. Il fait beau, ou à peu près. Mmh. Alors il fera peut-être moins beau en Bretagne que dans le sud-est ou dans le sud-ouest, mais en tous les cas, toutes les conditions sont réunies pour faire dehors ce qu'on n'a pas pu faire pendant un an et demi.
Voilà. Une randonnée d'une heure et demie, l'exercice physique, c'est du sport et ça remet en forme.
Bien sûr. Alors, on fait la différence entre activité physique et sport. L'activité physique, c'est celle qui consiste à vous faire bouger, à vous faire transpirer, à vous faire faire autre chose que votre quotidien. Voilà. Le sport, vous allez chercher plus de performance, plus de temps sur des distances à vélo ou à pied. L'activité physique est ouverte à tout le monde. Le sport peut l'être un peu moins pour certaines personnes qui ne bougent pas trop d'habitude. Mais tout le monde doit être capable de faire l'activité physique. Et quand vous dites une heure et demie de marche à pied, de randonnée, c'est faire quelque chose, évidemment que c'est faire quelque chose. On prend une bouteille d'eau, on met ça dans un sac à dos et on va bouger pendant une heure et demie avant de rentrer, prendre une bonne douche et de faire autre chose.
Est-ce qu'il faut faire attention quand même, justement, on arrive en vacances, on est fatigué par les derniers mois, il a souvent fait chaud dans les villes, etc. On peut être physiquement un petit peu, touché. Est-ce qu'on démarre pas tout de suite plein pot? Si on parle par exemple d'un tennis un peu intense, on fait attention à l'heure qu'il est, d'un footing, on attend un petit peu de se reposer un peu avant. Qu'est-ce que vous conseillez par rapport à ça?
Alors, quand on est fatigué, vous savez, on dit que, je prends un exemple extrême, le mal de dos, voilà, quand on a été stressé, on peut avoir mal au dos, etc. C'est le mouvement qui est le meilleur allié pour lutter contre le mal de dos. Voilà, donc bouger, même si on est fatigué, même si on a une petite pathologie, c'est toujours positif. Et si vous arrivez en vacances un peu fatigué, vous pouvez quand même bouger. Effectivement, on n'essaie pas tout de suite de faire 5-7 au soleil à 4h de l'après-midi, on essaye de jouer plutôt le matin tôt ou le soir en fin de journée à la fraîche. Mais en tous les cas, chacun à son niveau, on peut démarrer quelque chose et vous verrez que chemin faisant pendant vos vacances, alors que vous êtes arrivé fatigué, si vous bougez, si vous marchez, si vous faites des sorties à vélo, si vous jouez un peu au tennis avec vos enfants ou avec votre voisin, vous allez vous refaire la cerise, vous allez retrouver un bon sommeil, ça c'est très important, vous allez retrouver une espèce d'équilibre alimentaire parce que quand on bouge beaucoup,
on mange peut-être un peu plus aussi l'été, il y a les barbecues, il y a éventuellement l'apéro qui est un peu plus costaud
que d'habitude.
Exactement,
on essaie de respecter cette règle qui consiste à, si on fait un peu des folies le midi, d'être un peu raisonnable le soir, mais en tous les cas, même fatigué, même en arrivant un peu avec le moral un peu touché parce que la période a été compliquée, on peut se lancer et chemin faisant, vous verrez que ce sera positif.
La natation, par exemple, si vous disiez on fait du sport sans s'en rendre compte, une baignade,
bien sûr, tout à fait.
À défaut de ne faire que patauger, on nage un peu, ça aussi, ça peut faire du bien.
Et on peut nager partout, on peut nager évidemment dans la mer, vous allez en vacances sur la mer, mais nous avons en France des étangs qui sont magnifiques. Je suis allé faire, donc, quand j'ai fini ma vélodyssée la semaine dernière, je suis allé jusqu'à Saint-Pé-sur-Nivelle au Pays Basque.
Et j'ai combien de kilomètres alors, Christophe, en tout, vous avez fait?
On en a fait pas loin de 150, 200, ah ouais. Quand même, voilà à peu près. J'ai retrouvé le lac de Saint-Pé-sur-Nivelle, donc au Pays Basque. Et si vous allez par là-bas, on peut nager sur ce lac, on peut faire certains sports nautiques, et on peut surtout se dire que, en se retrouvant à l'extérieur, en famille, avec les enfants, avec les parents, avec les grands-parents, voire si on parle de randonnée, de promenade, on peut concrètement faire des choses, on peut concrètement faire de l'activité physique.
Et pour, si on parle d'un mot des sportifs un petit peu plus aguerris qui s'entraînent un peu tout au long de l'année, est-ce que faire une préparation physique, par exemple, sur le modèle de ce que peuvent faire les sportifs professionnels, évidemment, chacun son niveau, est-ce que c'est aussi un moyen d'être en forme pour le reste de l'année? Si on se prépare, on profite du repos des vacances pour pousser un petit peu les entraînements, et est-ce que ça permet aussi de faire une rentrée plus en forme?
Bien sûr, alors vous parlez des gens qui sont un peu plus sportifs et qui l'été sont aussi en vacances. Tous les sportifs, tous les sports de co qui vont redémarrer au mois de septembre, tous les pros et même les amateurs font ce qu'on appelle la prépa d'été.
Oui.
Ils font un entraînement spécifique, ils font ce qu'on appelle de la PPG, de la préparation physique générale. Chacun à son niveau, en se disant je suis en vacances 3 semaines entre juillet et août, je vais redémarrer, je vais ma rentrée des classes entre guillemets au mois de septembre, je peux profiter de ces 3 semaines pour faire effectivement une sorte de PPG, de la préparation physique générale. Je peux courir, je peux faire du vélo, je peux refaire des abdominaux, je peux refaire de la musculation un peu naturelle avec des pompes, avec un certain nombre d'appuis sur des marches, etc. Ouais. C'est le moment vraiment pour s'y remettre si jamais on l'a pas fait depuis longtemps, et c'est aussi le moment pour se mettre un peu à contribution si d'aventure on veut se préparer pour avoir une rentrée un peu boostée quoi.
Voilà. Merci coach.
De rien.
Merci Christophe Brun de nous avoir donné ces précieux conseils pour passer des bonnes vacances sportives. On vous retrouve tout à l'heure à 9h15.
Tout à fait, avec Michel Simès, avec Emma Strack et avec Patrice Romnen. On a fait une émission un peu spéciale aujourd'hui, on a repris les meilleurs moments de la saison et j'espère qu'on va vous renseigner comme d'habitude et aussi je pense vous faire sourire.
Merci beaucoup, bon été Christophe, à tout à l'heure 9h15 avec Michel Simès. Merci d'avoir été avec nous.
RTL Petit Matin jusqu'à 7h
avec Olivier Bois.
Et voilà pour les courageux qui feront du sport aujourd'hui pour les vacances malgré la météo un petit peu difficile. Merci d'être avec nous sur RTL, il est tout juste 6h du matin. Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous, Pierre Collin. Bonjour Pierre.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Et on commence avec cette grosse frayeur hier dans l'Aude.
Premier grand incendie de forêt de l'été dans le sud de la France. La sécheresse est relativement précoce dans les plaines audoises cette année. Ajoutez à cela du vent et le moindre départ de feu devient vite incontrôlable. C'est ce qui s'est passé hier entre Gruissant et Narbonne-Plage. 500 pompiers ont lutté une grande partie de la journée contre un incendie qui a détruit 250 hectares de garrigues. Un camping et une trentaine d'habitants ont été évacués. Tout le monde a pu rentrer dans la soirée sain et sauf. Écoutez Rémi Récio, sous-préfet de l'Aude.
Nous avons eu un feu très important, 250 hectares qui sont partis en fumée. Un feu compliqué à prendre en considération parce que plusieurs fronts ouverts en même temps, parce qu'un relief très très défavorable. Hier, 350 sapeurs-pompiers mobilisés, des moyens aériens très conséquents, 6 canadaires, 3 dash. Nous n'avons aucun dommage corporel, aucun dommage matériel puisqu'il n'y a pas une seule maison qui a été touchée. Nous avons dû préventivement évacuer un camping où il y avait 130 personnes et une trentaine de personnes qui étaient dans des domiciles à proximité de la lisière de feu. Hier soir, à 23h, tout le monde avait réintégré le camping ou les domiciles. Il n'y a pas eu de conséquences corporelles, en dehors d'une blessure légère à la cheville en cours d'intervention par un sapeur-pompier.
Rémi Récio, sous-préfet de l'Aude, au micro RTL de Benjamin Pelsi.
Et la politique maintenant, le congrès du Rassemblement National se poursuit donc aujourd'hui à Perpignan.
Une semaine après leur défaite au régional, les membres du parti se réunissent pour amorcer la présidentielle de 2022. Sans surprise, Marine Le Pen sera réélue aujourd'hui à la présidence du parti, c'est la seule candidate à sa propre succession. Objectif de ce congrès, regonfler les troupes pour les mois qui arrivent, et c'est ce qu'a fait Jordan Bardella.
Je vous le dis avec force, avec conviction et avec la fougue de la jeunesse, rien n'est perdu, rien ne sera perdu et il y a encore un chemin. Les victoires et les conquêtes qui nous attendent, mes amis, dans les prochains mois ne sont en rien compromises par le résultat de ces élections régionales et départementales que nous venons de vivre. Nous avons 10 mois pour élever ce moral au plus haut, pour montrer au peuple français que nous sommes les plus déterminés et les plus capables de répondre à leurs espérances. Mes amis, nous n'avons jamais été si près du but. Alors mobilisation générale, le compte à rebours a démarré. Vive Perpignan, vive le Rassemblement National, vive la République et vive la France.
Propos recueillis par Marie Mollet à Perpignan.
Et à propos de politique, notez que l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI sera tout à l'heure François Bayrou, haut commissaire au plan, maire de Pau et leader du Modem. Il répondra aux questions de Benjamin Sportouche entre midi et 13h. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle rencontre avec les partenaires sociaux qui est prévue à l'Elysée mardi prochain.
Emmanuel Macron recevra les leaders syndicaux et patronaux afin de faire le tour des sujets d'actualité. Et il n'en manque pas, Covid, emploi, retraite devraient faire partie des discussions. Alors que ce matin, dans le journal du dimanche, Laurent Berger de la CFDT et Geoffroy Roux de Bézieux du MEDEF plaident ensemble, ce qui est rare, pour une vaccination massive des salariés. Ils appellent à réveiller le sens civique de chacun. Pour eux, la vaccination est la seule manière de retrouver une vie normale.
Et à 6h03 sur RTL, on va parler de cette très vaste cyberattaque aux États-Unis qui a entraîné la fermeture de 800 magasins en Suède.
Et oui, des pirates informatiques ont attaqué la société Caseya, une entreprise américaine mais qui a des clients partout dans le monde, et cela a des conséquences très concrètes, notamment donc sur une chaîne de supermarchés suédoise qui a dû fermer, et beaucoup d'autres entreprises pourraient être impactées, Karine Houten.
Oui, car en touchant Caseya qui vend des solutions clés en main, les hackers ont atteint 40 de ses clients, mais ceux-ci fournissant des services à d'autres sociétés, ce sont en tout plus de 1000 entreprises qui ont été contaminées, et cela a bien dépassé les frontières américaines. En Suède, une chaîne de supermarchés a dû fermer plus de 800 magasins car ses caisses avaient été paralysées. Cela rappelle, si vous voulez, le mouvement d'aile du papillon qui provoque une véritable tempête. Et donc, pour les experts, l'attaque de vendredi est l'une des plus étendues de l'histoire de la cybercriminalité. Il faudra plusieurs mois aux enquêteurs pour remonter jusqu'aux hackers, sans compter que les entreprises qui voudront récupérer leurs données seront peut-être prêtes à payer des rançons. Ces attaques, véritables cauchemars pour les sociétés, se multiplient ces derniers mois et on comprend mieux pourquoi la cybercriminalité est devenue une priorité de l'administration Biden. Les hackers sont souvent hébergés dans des pays qui refusent de coopérer, or ils ont le pouvoir de paralyser des chaînes de production entières, de toucher le cœur de l'économie occidentale. Joe Biden a prévenu aujourd'hui Moscou que si la Russie était impliquée, Washington allait rétorquer.
Karine Houten pour RTL.
On passe au sport, Pierre, avec l'Euro de football. L'Angleterre n'a laissé aucune chance hier soir à l'Ukraine.
4-0 lors des quarts de finale de l'Euro de football. Les Anglais ont ouvert le score dès la 4e minute, puis ont assommé les Ukrainiens en seconde période. Baptiste Durieux.
Pragmatique, chirurgical et diablement efficace, l'Angleterre a trouvé la recette. Un effectif pléthorique dont le talent rime désormais avec victoire, loin des déceptions et de la frustration connues par le passé. La dernière demi-finale de l'Angleterre dans un euro remonte à 1996, un pays tout entier qui chante aujourd'hui. Football is coming home, le football revient à la maison. Et la maison s'appelle Wembley, le stade mythique de Londres où les Anglais retrouveront le Danemark. Un effectif moins clinquant, mais un collectif toujours aussi enthousiasmant. Du beau jeu, de l'audace et une solidarité à toute épreuve après le malaise cardiaque de leur partenaire Christian Eriksen en début de compétition. Pour le Danemark, comme pour l'Angleterre, la belle histoire continue.
Éclairage de Baptiste Durieux pour RTL. Encore une belle étape de montagne sur le Tour de France aujourd'hui. 145 km entre Cluses et Tignes avec une première arrivée au sommet. 5 cols répertoriés dont un hors catégorie, le col du Pré. Hier, sous la pluie, Tadej Pogacar a écrasé la concurrence. Le vainqueur sortant s'offre le maillot jaune avec déjà 1 minute 48 d'avance sur Wout van Aert, le second, et plus de 5 minutes sur Richard Carapaz, l'un des grands favoris pour la victoire finale. Et puis un mot de Formule 1, Max Verstappen sur Red Bull a pris la pole position du Grand Prix d'Autriche. C'est la 7e fois de sa carrière en F1. Le départ de ce Grand Prix d'Autriche est à 15h, heure de Paris.
Oui, et Pierre, le français Pierre Gasly est 6e sur la grille. Esteban Ocon, lui, l'autre français, sur son Alpine Renault, n'est que 17e. La météo du jour, c'est capricieuse aujourd'hui, hein.
Toujours beaucoup d'instabilité avec des averses fréquentes sur la plupart des régions. On attend même de gros orages entre le Massif central et les Alpes, avec des pluies soutenues, peut-être même de la grêle. La Corse devrait rester au soleil, mais la côte méditerranéenne fera face à un ciel plus nuageux que ces derniers jours. Il pourrait même y avoir une petite averse. Les températures ce matin, 13 à 21 degrés des Ardennes au Roussillon, et puis dans la journée, de 17 à 29 degrés. 17 c'est pour Cherbourg, 20 degrés à Lens, 28 à Ajaccio et Montpellier, 29 à Marseille.
Et puis on termine avec les courses qui ont lieu à Saint-Cloud aujourd'hui.
Oui, départ à 15h15, les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, l'As, le 10, le 5, le 2, le 7, le 15 et la dernière minute, c'est le 10, Olympie.
Merci beaucoup Pierre Collat pour ce journal de 6h. On va faire une pause dans un instant. Restez avec nous. Vous êtes peut-être un certain nombre de grands-parents à recevoir dans les jours qui viennent vos petits-enfants à la maison pour les garder pour cet été. Eh bien, notre vétérinaire Hélène Gâteau va vous expliquer tous les gestes un petit peu à adopter pour bien être sûr que les petits sont en sécurité. Parfois, les animaux de compagnie peuvent être surpris par l'arrivée des plus petits. À tout de suite sur RTL. Courte pause.
Réveillez-vous avec Olivier Bois sur RTL. RTL Petit Matin Week-end, 5h, 7h.
Olivier Bois.
Et en ce dimanche 4 juillet, c'est l'heure de retrouver Hélène Gâteau. Bonjour Hélène.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
La vétérinaire d'RTL évidemment, comme tous les week-ends, pour votre dernière chronique, en l'occurrence avant les vacances.
Exactement.
Vous allez nous parler des animaux et des enfants. Pourquoi donc aujourd'hui ?
Parce que je pense à tous les grands-parents qui nous écoutent ce matin et qui vont accueillir leurs petits-enfants cet été. Ils sont sûrement ravis, mais ces boules d'énergie vont venir bousculer leur quotidien plutôt calme et aussi eh bien, celui du chien ou du chat de la maison.
Et du coup, est-ce qu'il peut y avoir par exemple une recrudescence des morsures l'été ? Est-ce qu'il peut y avoir de la jalousie ?
Eh bien oui, il y a une recrudescence des morsures l'été. Parce que on a beaucoup d'activités en plein air, il y a beaucoup d'excitation et donc plus d'accidents. Les enfants vont courir dans le jardin, ils crient, ils vont détaler devant le chien, ce qui va réveiller son instinct de prédation. Et donc on peut avoir des morsures. Je vais vous donner quand même quelques chiffres concernant les morsures. Sachez que dans quasi 80% des cas, le chien en cause, dans les cas de morsures, est un chien connu des enfants. Et dans 70% des cas, il n'avait jamais mordu avant. Donc même si vous vous dites, mais mon chien ne mord pas, eh bien on ne sait jamais, dans des circonstances exceptionnelles, eh bien événements exceptionnels aussi. Et dans plus de 3 cas sur 4, il n'y avait pas d'adultes pour surveiller et dire aux enfants peut-être attention.
Et du coup, à quoi est-ce qu'il faut faire particulièrement attention ?
Alors, il faut faire attention aux signaux du chien qu'il faut apprendre aux enfants, car 60% des enfants se méprennent sur les intentions du chien. Un chien qui montre les dents, ce n'est pas un chien qui sourit. Et inversement, un chien qui aboie, qui est très excité, qui allonge ses pattes avant avec le train arrière relevé, c'est une attitude un peu brutale qui peut effrayer un enfant alors que c'est un appel au jeu. Et puis un chien qui est recroquevillé sur lui-même dans un coin n'est pas calme, mais il peut être au contraire stressé, en panique. Et si l'enfant se présente devant lui, l'acculant parfois dans un coin, eh bien le chien pris en défaut va mordre pour échapper à cette situation d'inconfort.
Et alors du coup Hélène, quelles sont les petites règles qu'on peut inculquer à nos jeunes enfants ?
Alors si on a par exemple un chien qui est trop envahissant, qui vient trop tourner autour, bousculer un peu les enfants, il faut leur apprendre à faire l'arbre. On se met tout droit, on lève les bras en l'air et puis on attend que ça passe. Si jamais l'enfant vient de tomber du vélo, cette fois-ci on lui apprend à faire la pierre, à se mettre en boule et puis à se cacher un petit peu la tête. On ne sait jamais comment le chien pourrait réagir. On ne court pas après un chien ou vers lui, surtout si lui est en train de se barrer en fait, parce que dans ces cas-là, ça peut lui faire peur. On ne dérange jamais un chien qui dort ou qui mange. Et puis on évite aussi de partir en courant devant lui, en criant, etc. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait réveiller son instinct de prédation. Bien sûr, on évite aussi de lui tirer la queue et les oreilles, ça paraît logique. Si vous réprimandez vos enfants ou vos petits-enfants parce qu'ils sont en train de faire des bêtises, attention aussi, parce que votre chien pourrait se retrouver sensibilisé par rapport à ça et considérer l'enfant comme un potentiel danger, parce qu'il vous a vu vous mettre en colère face à l'enfant.
Il faut le faire en dehors en dehors
de la présence du chien, d'accord. Exactement. Et puis si vous avez un animal, un chien un peu âgé, attention que les caresses, les sollicitations des enfants ne réveillent pas chez lui des douleurs, parce que dans ces cas-là, il pourrait mordre parce qu'il a mal.
Et alors, vous nous avez beaucoup parlé des chiens. Pour les chats, est-ce qu'il y a des règles aussi de prudence à respecter?
Oui, les règles pour éviter de se faire griffer ou mordre, c'est: on ne dérange pas un chat qui dort, qui mange ou qui ne vient pas chercher des caresses. On ne le poursuit pas. On n'essaye pas de le porter dans les bras coûte que coûte. On laisse toujours le chat être à l'initiative. Et puis on caresse la tête et le dos, mais jamais le ventre. On ne joue jamais avec les mains, mais toujours avec un objet. Ce sont de petites règles, mais sincèrement, pour bien avoir de belles vacances devant vous, je vous conseille de les inculquer dès les premiers jours à vos enfants ou petits-enfants.
Merci beaucoup, merci pour tous ces conseils, Hélène Gâteau. Bon été à vous.
Oui, vous aussi, bonnes vacances avec vos animaux, bien sûr.
De Patrick Bruel, qui va d'ailleurs sortir son nouvel album, qui est prévu à l'automne prochain. On embrasse ce matin Aude Emmanuel, qui vient nous écrit sur Facebook. Coucou les amis, depuis Chambéry, où il fait là-bas 15 degrés, et un programme chargé pour Aude Emmanuel aujourd'hui, puisqu'elle prépare un super anniversaire, dit-elle, à son amour de mari, Thierry. Bon anniversaire à Thierry. Vous avez de la chance, vous avez une femme qui vous prépare une belle journée d'anniversaire. Bonne journée à tous sur RTL. On va faire une courte pause. Dans un instant, on va revenir sur cette date importante dans l'histoire de la démocratie mondiale. Le 4 juillet 1776, la déclaration d'indépendance des États-Unis. C'est Jean-Baptiste Giroux, question au saut du lit, qui nous dit tout sur cette date capitale. A tout de suite sur RTL.
RTL. Question au saut du lit, Jean-Baptiste Giroux.
Et c'est l'heure des questions au saut du lit. On retrouve Jean-Baptiste Giroux en ce dimanche matin. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Olivier, est-ce que vous savez quel jour nous sommes aujourd'hui? Enfin, je suis bête, vous le dites depuis tout à l'heure à nos auditeurs.
Oui, Jean-Baptiste, quand même, je sais que nous sommes le 4 juillet, merci.
Et on fait quoi aujourd'hui?
Eh bien, à ma connaissance, on fait au moins la fête nationale américaine, la fête de l'indépendance.
Ah bon, c'est pas mal, on voit que vous connaissez vos classiques, mais est-ce que vous savez précisément ce qui s'est passé le 4 juillet? Le 4 juillet quoi d'ailleurs?
1776.
Ah, il est très très fort. Ah. Bon, et vous savez ce qui s'est passé le 4 juillet 1776?
Allez-y, donnez-nous vos propositions.
On va vérifier ça. Top chronomètre, trois explications, une seule est la bonne. Réponse numéro 1, le 4 juillet 1776, le général anglais Cornwallis est assiégé par les insurgés américains dans la ville côtière de Yorktown, pendant que la marine française, envoyée par Louis XVI, pilonne les fortifications après avoir coulé la flotte anglaise. Cornwallis capitule à la nuit tombée, c'est la fin de la guerre d'indépendance. Réponse numéro 2, le 4 juillet 1776, le général George Washington devient le premier président des États-Unis libres. C'est en son hommage que la capitale du pays va porter son nom quelques années plus tard. Réponse numéro 3, le 4 juillet 1776, les représentants des 13 colonies anglaises d'Amérique votent la déclaration d'indépendance par laquelle ils ne reconnaissent plus l'autorité du roi George, avec la phrase désormais célèbre « No taxation without representation ». Vous avez vu mon accent anglais?
C'est parfait.
Il est extraordinaire, je pourrais être américain je pense. Trois possibilités, une seule est la bonne.
Je dirais la réponse 3,
Olivier.
Ce sont les colonies anglaises qui déclarent leur indépendance.
En fait, vous étiez le gars qui écoute en cours d'histoire, c'est ça à l'école, si je comprends bien.
Exactement.
C'est pas possible.
C'est ça, j'ai gagné.
Moi, vous avez gagné, mais je suis un peu désarçonné parce que d'habitude, Christophe, il trouve pas ce genre de questions. Et vous trouvez tout, là, quand vous le remplacez. Oui, oui, Cornwallis, qui est assez célèbre, hein, on le voit notamment dans le film Patriote, qui est un film extraordinaire. On le voit assiégé à Yorktown, mais il est pas assiégé en 1776. Il est assiégé en 1781, après 5 années de guerre fratricide. Quant à George Washington, eh bien, c'est le 30 avril 1789 qu'il devient premier président des États-Unis. Donc, le 4 juillet, autrement appelé Independence Day, comme vous avez dit, on ne célèbre pas une bataille, on ne célèbre pas une victoire, mais on célèbre tout simplement le vote de la déclaration d'indépendance par les représentants des colonies américaines réunies à Philadelphie. Alors dans la réalité, Olivier, il faut savoir un truc, c'est que le choix de la date du 4 juillet est considéré comme un peu arbitraire par pas mal d'historiens, car en fait, dès le 4 juin 1776, donc un mois avant, eh bien les représentants des colons avaient déjà voté, toujours au même endroit, à Philadelphie, une motion approuvant le principe de l'indépendance de ces colonies vis-à-vis du Royaume-Uni. Et une autre déclaration d'indépendance, décidément, ils ont mis le truc plusieurs fois sur la table, a été votée le 2 juillet à l'unanimité, mais dans le plus grand secret. En fait, ce qu'on célèbre le 4 juillet, Olivier, c'est le vote d'un texte plus élaboré que les précédents. Un texte qui a été rédigé pendant de très longues heures par quelques colons, dont un très très célèbre qui deviendra le troisième président des États-Unis, le deuxième vice-président des États-Unis, le premier secrétaire d'État, et j'ai nommé Olivier.
Non, là je vais pas faire semblant, je
Thomas
sais pas.
Thomas Jefferson, ouais. Bien sûr. Jefferson, il est hyper connu. Jefferson, ça devient donc le troisième président des États-Unis après Washington, qui est le premier. Ne me demandez pas le second, je l'ai pas noté sur ma fiche, donc je saurais pas vous dire.
Mais je vous le Jefferson demande, pour les Français.
Non, mais nos éditeurs vont se précipiter sur Wikipédia, comme ça ils vont apprendre tous les noms de tous les présidents américains, ce que les petits Américains d'ailleurs apprennent à l'école, mais pas nous. Jefferson, c'est pas un inconnu pour nous Français parce que il a aussi été ambassadeur des États-Unis en France de 1785 à 1789. Il a vu les prémices de la Révolution française. Et puis, c'est surtout lui qui, quelques années plus tard, va négocier le rachat de la Louisiane à la France auprès d'un certain Napoléon, dont on célèbre cette année eh bien le bicentenaire.
Merci Jean-Baptiste Giraud. Et le deuxième président des États-Unis s'appelait John Adams. Il est mort en 1826.
Vous avez triché, bah oui, évidemment John Adams.
Portable.
Voilà, donc merci, ça nous fait Washington, John Adams et Jefferson.
Merci pour ce bout d'histoire américaine, Jean-Baptiste. Bonne journée à vous et à très bientôt. Bon été aussi.
Bon été à vous aussi.
Sa chanson Come Back to Me. Il est 6h25 sur RTL. Merci d'être avec nous. Quelques-uns de vos messages ce matin, très gentils. Vous nous écrivez Anne, par exemple, qui nous souhaite un bon dimanche. Il ne fait pas très beau chez elle à Lyon, dit-elle, mais on respire. Elle prend la vie du bon côté. Bonjour à Stéphane également. Bonjour Olivier, toute la team du week-end. Il est dans le Pays Basque. Stéphane à Saint-Pierre-d'Irube. Il fait 18 degrés là-bas. Il nous souhaite également un bon dimanche. Et puis on embrasse aussi, tiens, Stéphane. Coucou à toute l'équipe, à Sébastien pardon, coucou à toute l'équipe ici dans les Landes, à Luxeuil. Il fait déjà là-bas aussi 18 degrés et il souhaite une bonne journée de la part de Seb le boulanger. Il doit travailler certainement Seb et il commence à préparer ses traditions. Bonjour à lui, bon matin, on est ensemble. À quoi d'ailleurs va ressembler la journée? Ben tiens, on va interroger les astres. L'horoscope, bonjour Christinas.
Bonjour Olivier et bonjour à vous tous. Cancer, si vous êtes né aujourd'hui, bon anniversaire. Le soleil est pile en harmonie avec Uranus et peu à peu, votre vie est en train de prendre une autre direction. Vous y pensiez peut-être depuis longtemps. Lion, difficile période, nous en avons parlé toute la semaine, mais bonne nouvelle, les dissonances se terminent aujourd'hui, la tension va retomber, deuxième décan surtout. Vierge, les départs sont très logiquement à l'honneur, mais dans un climat un peu stressant à cause de la dissonance Mars-Uranus qui vous expose à l'agressivité d'autrui. Balance, votre planète Vénus est maître du zodiaque aujourd'hui. Et si vous êtes du premier décan, amour et amitié rempliront votre journée. Pas de soucis à l'horizon, sauf peut-être né fin septembre et début octobre. Scorpion, comme je vous l'ai dit hier, ce n'est pas le meilleur week-end de l'année. L'idéal serait de vous détendre en prenant de la distance avec les situations stressantes, mais ça n'est pas toujours possible. Sagittaire, la dissonance Mercure-Neptune est de retour, troisième décan, comme en mai et début juin. Certains d'entre vous sont plongés dans la plus totale incertitude. Capricorne, si l'image que vous donnez aux autres est un problème, si vous ne vous aimez pas, la vie vous donne l'occasion de vous découvrir différent de ce que vous pensiez, notamment deuxième décan. Verseau, vous n'avez pas encore retrouvé votre calme intérieur. Il y a quelque chose qui vous déstabilise, qui crée de l'angoisse et même fait remonter de vieilles angoisses. Poisson, est-ce que vous n'auriez pas envie de lâcher votre travail, deuxième décan, parce que trop de contraintes? Réfléchissez bien, trouvez un plan B avant de vous décider. Bélier, heureusement, ce dimanche est sous l'influence de Vénus. Vous saurez mettre la pédale douce, ne pas forcer les autres à faire comme vous et donc à prendre des risques. Taureau, deuxième décan, la Lune est chez vous, conjointe à Uranus et en dissonance avec Mars. Alors évidemment, ce dimanche ne vous verra pas très serein, ce sera même le contraire. Veillez à ne pas trop vous énerver. Gémeaux, troisième décan, la dissonance Mercure-Neptune est de retour et avec elle, ce sont les incertitudes concernant votre situation professionnelle qui reviennent. Je vous souhaite une bonne journée. Pour la suite de l'horoscope, c'est sur le 3210 ou sur rtl.fr.
5h, 7h.
RTL Petit Matin Week-end. Olivier Bois.
Merci beaucoup Christinas. Dans un instant le journal. Et puis je vous donne rendez-vous dans une dizaine de minutes avec le Paco Mago ce matin. Toujours exceptionnel puisque c'est un week-end en Corse qu'on vous fait gagner. Week-end à Calvi fin juillet. Avion, deux nuits d'hôtel pris en charge par RTL. On va se faire un petit questionnaire spécial Tour de France en hommage à notre très cher Christophe Paco qui est en ce moment sur la route du Tour, qu'on retrouve d'ailleurs ce soir à 18h30 évidemment avec Laurent Jalabert pour le club Jalabert. Trois questions sur le Tour de France et un magnifique week-end à gagner en Corse. Pour l'heure, il est quasiment 6h30 sur RTL. Et c'est un nouveau journal avec vous Sébastien Rouxiel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Et à la une ce matin Sébastien, le festival Pogacar sur le Tour de France justement.
Le Slovène tenant du titre a frappé un grand coup hier lors de la 8e étape. Non seulement il a pris le maillot jaune au néerlandais Mathieu Van Der Poel, mais il a aussi relégué ses principaux rivaux très loin derrière au classement général, Nicolas Georgerot.
Première étape de haute montagne, il a plié la concurrence. L'appui en continu, les 11 petits degrés au sommet des cols, aucun impact. Tadej Pogacar a tracé sa route. Alors quand on lui demande s'il a enlevé tout suspense à la course.
Il reste encore deux semaines. Ce n'est pas fini. J'ai roulé à mon rythme et à la fin, il y a un gros écart.
Il fallait voir la tête des échappés, repris 1-1 par le Slovène dans les 30 derniers kilomètres, éberlué au moment d'être doublé. Guillaume Martin en faisait partie, le leader de l'équipe Cofidis, a fini 8e de l'étape.
C'est tout bonnement impossible, oui. C'est assez phénoménal, c'est impressionnant, il n'y a pas d'autre mot.
Vexé de voir son équipe bousculer vendredi dans la longue étape du Creusot, Pogacar a donc répondu, ce n'est pas une réplique, c'est un séisme. Ses adversaires les plus sérieux, le Colombien Uran et l'équatorien Carapaz sont déjà à plus de 4 minutes 45.
Nicolas Georgerot sur le Tour de France pour RTL. On reste dans les Alpes aujourd'hui, 144 km entre Cluse et Tignes. Départ de la 9e étape à 13h10. On suit évidemment la course sur RTL avec un point toutes les demi-heures.
Et puis en football, l'Angleterre qualifiée pour le dernier carré de l'Euro après sa très large victoire hier soir face à l'Ukraine, 4-0.
Harry Kane et ses coéquipiers joueront leur place en finale mercredi prochain. Ils auront face à eux le Danemark. La sensation de ce tournoi qui s'est qualifié aux dépens de la République tchèque, victoire 2-1. Et puis en Formule 1, c'est le néerlandais Max Verstappen sur Red Bull qui s'élancera en pole position du Grand Prix d'Autriche tout à l'heure, départ de la course à 15h.
Et puis tiens, un mot de tennis, Roger Federer s'est qualifié lui pour la deuxième semaine de Wimbledon, il est en huitième de finale. RTL, il est 6h32. Dans le reste de l'actualité, on en vient à cet incendie qui ravage depuis hier le massif de la Clap près de Narbonne. Il est désormais, ceci dit, cet incendie fixé, Sébastien.
Oui, d'importants moyens ont été déployés sur place, jusqu'à 500 pompiers et plusieurs canadairs. Aucun blessé n'est à déplorer, pas de dégâts matériels non plus, mais ce sont environ 250 hectares de pinèdes et de garrigues qui sont partis en fumée. 130 personnes ont dû être évacuées par précaution d'un camping où s'est rendu Didier Mouly, le maire de Narbonne.
Je suis descendu dès que l'ordre a été donné par les services de secours de faire évacuer ce camping de 150 personnes. Il était complet. En plus, c'était la journée d'arrivée. Les gendarmes ont été très stricts. On ne pouvait pas reculer quand on avait oublié quelque chose. Et tout le monde devait partir avec le moment où les gendarmes arrivaient vers eux. C'est grand camping, c'est compliqué, mais vraiment, ça a été une évacuation dans le calme. Il fallait pas grand chose. Si le vent n'avait pas tourné, les premières maisons auraient été très touché, et on est tous rassurés puisque tout le monde a pu y retourner chez soi, apaisé et tranquillisé.
Le maire de Narbonne au micro de Benjamin Pelsi.
L'ouest du Canada en revanche, toujours en proie aux flammes ce matin.
Plus de 170 incendies continuent de ravager la province de la Colombie-Britannique, des feux alimentés à la fois par la grande sécheresse et les éclairs dus à la vague de chaleur inédite qui frappe la région, elle a fait au moins 700 morts. Et puis au Japon, les secouristes continuent de s'activer pour retrouver d'éventuels survivants après la gigantesque coulée de boue hier dans la ville côtière d'Atami. Une vingtaine de personnes sont toujours portées disparues. Deux décès ont été confirmés.
Retour en France à l'heure des premiers grands départs en vacances. On se projette, ceci dit, déjà sur la rentrée scolaire. La vaccination pourrait bien être au programme du premier trimestre.
Le gouvernement envisage en effet de mettre en place des opérations de vaccination dans les collèges et lycées. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est pour le moment assez réservé sur la question. Il encourage plutôt les Français à se faire vacciner. vaccinés dès cet été. Plusieurs dispositions ont d'ailleurs été assouplies pour faciliter les choses, Hortense Crépin.
Oui, à commencer par la possibilité dès lundi de recevoir votre deuxième dose dans n'importe quel centre. Jusqu'ici, les deux injections devaient être administrées au même endroit. Pratique donc si vous voulez vous faire vacciner sur votre lieu de vacances. Si vous ne partez pas en congé et que vous restez au travail, vous pouvez désormais demander une autorisation d'absence de quelques heures à votre employeur pour aller vous faire vacciner sans que cela ait un impact sur vos horaires ou votre salaire. Avant, il fallait parfois poser un jour de congé si le rendez-vous tombait sur un jour travaillé. Et alors que plus d'un Français sur deux a déjà reçu sa première dose, l'idée de rendre la vaccination obligatoire pour tous est en tout cas toujours écartée. Mais la question reste sur la table concernant les soignants.
Les explications d'Hortense Crépin pour RTL. Le Covid et la relance, ce seront des thèmes abordés mardi prochain à l'Élysée. Emmanuel Macron recevra en matinée les partenaires sociaux pour un tour d'horizon des sujets d'actualité. Seront donc présents notamment le patron du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, et le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Les deux leaders syndicaux qui appellent ce matin dans le JDD les salariés à se faire vacciner. Tous deux se disent par ailleurs plutôt favorables à une obligation pour tous les professionnels en contact avec du public.
Et puis l'actualité politique, c'est aussi le discours de Marine Le Pen à Perpignan cet après-midi.
Deuxième et dernier jour du congrès du Rassemblement National sur place. Son remplaçant à la tête du parti le temps de la campagne présidentielle doit être désigné aujourd'hui. Deux concurrents en lice, Jordan Bardella et le maire de Perpignan, Louis Alliot. Chez les Républicains, Jean Leonetti présentera mardi ses pistes pour départager les différents candidats à la présidentielle. Le maire d'Antibes plaide pour une primaire ouverte de la droite et du centre. Cela permettrait notamment à Valérie Pécresse et Xavier Bertrand d'y participer.
Et puis n'oubliez pas le rendez-vous politique aujourd'hui sur RTL, le grand jury RTL, le Figaro LCI, le président du MoDem François Bayrou répondra aux questions de Benjamin Sportouche entre midi et 13h. Tout à l'heure, on passe à la météo. Sébastien, c'est vraiment pas terrible aujourd'hui.
Oui, on a encore beaucoup d'instabilité, des averses fréquentes sur la plupart des régions. On attend même de gros orages entre le Massif central et les Alpes avec des pluies soutenues, voire de la grêle. Seule la Corse devrait profiter du soleil toute la journée. Les températures ce matin, elles sont comprises entre 13 degrés dans les Ardennes et 21 degrés dans le Roussillon. Cet après-midi, on aura 21 à Paris, 22 à Nantes, 24 à Lyon et 28 à Ajaccio.
Et les courses à Saint-Cloud cet après-midi.
Et Dominique Cordier vous conseille de jouer le 8, l'As, le 10, le 5, le 2, le 7 et le 15. Sa dernière minute, c'est le numéro 10 Olympie.
Merci beaucoup Sébastien Rouxel. Allez, on va faire une pause à 6h37 sur RTL. Dans un instant, on va écouter d'abord un peu de musique avec Nolwenn Leroy, Brésil Finistère. Et puis, ce sera, je vous en ai parlé, le Pacomago, questionnaire ce matin spécial Tour de France avec ce week-end en Corse à gagner. À tout de suite.
Bon réveil sur RTL avec Olivier Bois.
Écrite d'ailleurs par Benjamin Biolay, avec qui elle prépare son prochain album qui devrait sortir d'ici la fin de cette année. Et lui, vous le reconnaissez, c'est notre star du week-end, Hervé. On l'a déjà réveillé hier matin, on le réveille dans 5 minutes sur RTL. C'est sa chanson Un monde meilleur. Il va nous expliquer notamment aujourd'hui ses petits rituels du matin, ses rituels du dimanche, ce que ça signifie le week-end en famille, avec ses amis. On est avec lui dans quelques minutes. On va faire pour le moment une pause et... dans une minute, ce sera le Pacomago spécial Tour de France. A tout de suite sur RTL.
RTL Petit Matin Week-end, 5h, 7h.
Olivier Bois. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du Pacomago.
Et l'heure du Pacomago ce matin sur RTL avec ce week-end en Corse à gagner pendant 2 jours, tout frais payé, avion, hôtel par RTL. On accueille nos deux candidats du jour, Stéphane et Philippe. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors bonjour Stéphane, vous nous appelez d'où d'abord Stéphane ?
De Roanne, à côté de Roanne.
À côté de Roanne, bienvenue sur RTL et merci de nous avoir appelé ce matin. Philippe, vous nous appelez d'où vous ?
Bretigny-sur-Orge, en Île-de-France.
Bretigny-sur-Orge, bienvenue à tous les deux. On va se faire un petit questionnaire Tour de France, si ça vous va.
Oui.
Ok.
Il va falloir.
Exactement. Bien, est-ce que tu peux me mettre une petite ambiance question pour un champion, s'il te plaît. Alors la première question, je vous la fais dans le ton. Vous êtes prêts tous les deux, Stéphane et Philippe ?
Oui.
Je reste à ce jour le coureur cycliste le plus populaire de France. Mon nom est devenu un mot usuel de la langue française qui équivaut à dire qu'on est plus souvent deuxième que premier.
Poulidor.
Ah mais qui a parlé en premier ?
Stéphane.
C'est Stéphane.
C'est Stéphane. Je crois.
Stéphane, j'ai pas eu le temps d'aller au bout de la chanson, de la question. Bravo. C'était Poulidor, effectivement, qui a couru, on le rappelle, entre 62 et 76, qui a effectivement jamais gagné le Tour de France. Il détient le record des podiums. Il a fini trois fois deuxième, ce qui lui équivaut évidemment cette réputation d'être jamais vainqueur. Même si, quand même, rappelons-le, il a 189 victoires au compteur. Il a gagné deux Paris-Nice, un Milan-San Remo et une Flèche Wallonne. Donc, ça a quand même arrivé à Raymond Poulidor d'être premier, et il a même eu le droit, au vu de sa popularité, à des chansons Poulidor.
60 millions de Poulidor, la passion, le cœur en or, mais il roule derrière.
C'est Johnny, ça?
Non, c'est le chanteur Kent. Vous avez raison, on aurait pu penser à une balade de Johnny, ouais, mais non, c'est le chanteur Kent. En 1996, sa chanson 60 millions de Poulidor. C'est vrai qu'on a un petit côté comme ça, nous les Français, on a de l'amour pour ceux qui ont du panache, mais qui finissent pas toujours en tête du podium. Donc Oriane, vous tenez les comptes, c'est Stéphane qui mène 1-0, c'est
exactement,
ça
hein. Exactement, oui.
Alors deuxième question, écoutez-moi, le maillot à poids récompense-t-il le meilleur grimpeur?
Le meilleur grimpeur.
Alors, je crois que c'est Philippe cette fois-ci.
C'est Philippe qui a parlé en premier ?
Il me semble.
Eh ben, très beau, du suspense.
Vous confirmez, Philippe ?
Oui, c'est ça.
Un partout entre Stéphane et Philippe. Donc, le maillot à pois, évidemment, ça évoque tout de suite, j'imagine, pour vous aussi, Richard Virenque, le chouchou lui aussi, du public français. Lui non plus n'a jamais gagné le Tour de France, mais il a ramené 7 fois le maillot à pois sur les Champs-Élysées, ce qui est un record en l'occurrence. Attention, ça va être une chanson, une question de rapidité. Vous allez me donner la réponse, prénom et réponse. Ok ? Ça va pour vous ? Où se joue traditionnellement l'arrivée du Tour de France ?
Paris.
Paris.
Précision ?
Champs-Élysées.
Champs-Élysées. Qui a dit ça en dernier, Champs-Élysées ?
Moi.
Stéphane.
C'est Stéphane.
J'avais dit Place de l'Étoile, c'est pas top.
Ah ouais, non. Champs-Élysées, l'arrivée, okay. C'était juste après la Place de l'Étoile, dommage. Dommage, désolé pour vous, Philippe. Vous étiez pas loin, effectivement, à quelques mètres près. Les Champs-Élysées, c'était la bonne réponse. Et donc Stéphane qui gagne ce matin le Paco Mago. Stéphane, vous partez en Corse au festival, donc Corse en Seine, fin juillet, avec départ de Paris, arrivée à Calvi, de nuit dans le Grand Hôtel de Calvi, et des entrées pour deux personnes, évidemment, hein, deux personnes pour le festival Corse en Seine. Est-ce que vous êtes content, Stéphane ?
Ah, ravi, merci. Désolé pour Philippe.
Ah bah oui, non, mais très, très bien. Bravo, Philippe. Franchement, ça s'est joué à très peu de choses. Merci de nous avoir appelés tous les deux. J'espère que vous allez passer une très bonne journée avec nous sur RTL. On va suivre évidemment le Tour de France avec toutes nos équipes sur le terrain. C'est une étape de montagne encore aujourd'hui. On la suivra toutes les demi-heures sur RTL. Merci à tous les deux. Bonne journée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Béa ? On va faire une petite pause. Et dans un instant, c'est Weekend de Star. On réveille le chanteur Hervé. À tout de suite. Et notre star du week-end, vous le savez si vous étiez avec nous hier matin, exactement à la même heure, c'est le chanteur Hervé qu'on réveille à nouveau en ce début, en ce dimanche matin. Bonjour Hervé.
Bonjour.
On vous retrouve encore et on est ravis de passer vraiment une partie du week-end avec vous au saut du lit, de bonne humeur en plus. Merci beaucoup.
Oui.
On le rappelle, hein, donc on en a parlé hier matin, votre album Hyper qui marche très fort, la chanson qui tourne le plus, Si bien du mal, mais il y a 16 autres titres sur votre album puisque vous avez fait une version enrichie en plus en avril dernier à l'Hippodrome de Longchamp. Il y aura 10 000 personnes normalement cet après-midi et c'est un concert évidemment important pour vous et qui vous touche particulièrement parce que devant vous ce seront uniquement des personnels soignants. Ça a été le choix du festival cette année.
Ouais, c'était important. C'est génial de rejouer en festival déjà. Depuis le début de la tournée, c'est incroyable. On a encore 50 dates jusqu'à l'Olympia d'octobre, c'est fou. Et de jouer lorsque la cause est noble, c'est quand même la plus belle. Je pense que c'est là où ça prend tout son sens. Et particulièrement pour le personnel soignant et tous les gens.
Vous avez peut-être fait partie de ceux qui applaudissaient à leur fenêtre ou sur leur balcon au moment du confinement?
Ben moi j'avais pas tellement de voisins, donc en Bretagne là j'aurais pu applaudir pour faire fuir les oiseaux, mais
vous avez pensé à eux,
oui,
à ce moment-là.
Oui, j'en avais dans ma famille qui était sur le front, j'avais des proches qui étaient au front aussi. C'est énorme ce qu'ils ont fait, c'est grâce à eux tout ça. Il faut pas oublier parce qu'il y a des décisions, bon certes, mais il y a des gens qui travaillent tous les jours et qui ont laissé pas mal de nuits et des sacrées belles cernes. Et si on peut voilà, passer un moment de danse, de musique, d'énergie et de sourire. Enfin voilà, c'est pour ces raisons-là qu'on fait ce métier-là.
Et alors Hervé, la chronique s'appelle Weekend de Star.
À quoi ressemblent vos week-ends? D'abord, est-ce qu'ils ont changé depuis que vous êtes devenu, entre guillemets, j'imagine que vous n'allez pas vous auto-qualifier de star, mais que vous êtes devenu connu, disons.
Oui, non, ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé?
Ah non, pas du tout. Quand j'ai un week-end, je vais en Bretagne.
Ah oui?
Je vais voir ma famille. Sinon, je suis à Paris, je vois mes copains. Je traîne à la maison pas mal, comme avant. Je regarde le sport.
Et c'est un rythme. Le week-end, ça correspond à quelque chose qui est rythmé pour vous. Je veux dire, c'est pas n'importe quel jour, le samedi, le dimanche, dans votre vie qui peut être un peu rythmée par les concerts, etc.
Souvent, j'aime bien rebosser un peu, quoi. Filer un coup de main, bosser un peu avec mes mains.
Par exemple.
Bon, je vais aider un pote sur un chantier, un truc, un machin. Je vais toujours avoir un peu. J'ai besoin ou de refaire un truc chez moi, ou de faire de toujours aller marcher et tout. Je sais pas. Ma vie a pas trop changé, hein. Même mes vacances, mes week-ends, c'est pareil. C'est toujours pareil. Ou alors je fais de la musique.
Et vous nous disiez hier matin que vous étiez pas un lève-tôt et qu'en l'occurrence, si c'était pas pour RTL, vous seriez pas levé à 7h-10 ou à 6h30 du matin. Est-ce que vous êtes un fêtard? Est-ce que le week-end, c'est synonyme de fête pour vous?
C'est synonyme de temps avec les miens, toujours. Donc beaucoup, je déjeune beaucoup, j'aime bien cuisiner, j'aime bien, et puis de repos aussi. Et puis là en ce moment c'est festival, donc c'est encore mieux parce que je suis avec les copains et les copines sur la route là, ça c'est trop cool. Et sinon disons que j'aime bien les choses simples, quoi. J'aime bien le week-end, aller marcher, me balader, etc. Plus que forcément, comme avant, faire la fête à fond et tout, même si j'aime bien ça quand même.
Et vos rituels du matin, maintenant qu'on vous a réveillé, est-ce que vous êtes directement... Parce qu'on parle beaucoup de vous comme d'une énergie débordante, on le voit dans votre clip, vous dansez partout, dans votre cuisine, dans votre appartement. Est-ce que vous êtes directement sur 1000 volts ou il vous faut une petite heure avant d'émerger?
Disons que c'est ma tête qui part vite, plus que mon corps. C'est ma tête qui est toujours à fond, donc oui, ça va. Le matin, je bois mon café tranquille, je mange pas beaucoup parce que j'aime bien pas être fatigué et pas prendre des coups de barre. Pareil à midi, je mange bien mais pas beaucoup le soir.
Vous êtes sérieux. Et il y a eu beaucoup de sport aussi dans votre vie. Est-ce que ça aussi c'était synonyme du week-end? Les matchs de foot que vous avez pratiqués à haut niveau, le cyclisme en Bretagne, je sais pas si c'était des rendez-vous aussi pour vous.
Disons que j'aime bien le week-end, j'aime bien regarder du sport, quoi. J'aime bien en faire. Puis j'ai des bons souvenirs de match du dimanche, de tout ça. Non, c'est synonyme de communion aussi. On peut se rassembler, regarder un match, un truc, aller à un concert maintenant. C'est génial. Ou aller au cinéma, j'aime bien.
Et cette vie, cette vie normale, justement, vous, en plus, vous êtes chanteur, donc la vie normale, ça veut dire les concerts et le rythme habituel pour vous. Mais qu'est-ce que vous retenez de cette année qui vient de s'écouler et dont on espère qu'elle se termine et qu'on ne re-signera pas pour les problèmes? Mais vous en tirez quoi au final?
Beaucoup de bonheur. C'est vrai que mine de rien, j'ai vu quand même beaucoup de solidarité entre les gens à rester chez eux, à suivre les couvre-feux. On ne parle pas de ça. Et ça, c'est quand même... socialement, c'est quelque chose de fort, je crois.
Un espèce d'esprit collectif, quoi, une solidarité.
Mais ça, on n'en parle pas. On fait comme si c'était rien passé. Mais c'est ça qui s'est passé aussi bien dans les hôpitaux que pour les profs, que pour... tout le monde qui a travaillé à la maison, les gens qui avaient des enfants à la maison pendant qu'ils travaillaient en télétravail. Ça a été une sacrée année, quand même. Donc c'est vrai que pour moi c'était ça rimait avec la première sortie de mon premier album, donc c'est censé être le moment le plus le plus joyeux, et ça l'a été. Ça n'a pas entaché. Je suis resté très positif et essayer de proposer un maximum de musique et de moments aux gens.
Et ça a boosté. On ressent quand même de l'optimisme dans vos chansons. Je pense à la chanson Un monde meilleur. Vous dites « Réveille-moi si on peut rêver d'un monde meilleur. J'ai pas tué l'espoir qui brûle à l'intérieur. » Finalement, c'est à peu près ce que vous venez de dire. C'est-à-dire quand même, vous en tirez du positif, quoi.
Ouais, j'ai pas tué l'espoir. C'est très important, le « j'ai pas ». Parce que ça paraît comme un refrain un peu psychédélique, un peu très heureux, très happy, quoi. Ouais. Ça a révélé aussi de très belles choses en l'autre et en chacun. Et j'espère que ça, on l'oubliera pas. Et qu'on n'oubliera pas tous ceux qui ont bossé pour qu'on puisse s'en sortir aujourd'hui. Quoi.
Eh ben, merci pour ce message. On vous retrouve cet après-midi au Solidays, donc devant les personnels soignants, précisément pour un concert qui leur sera dédié. Et on va. Merci, Hervé, d'avoir été avec nous sur RTL aussitôt
avec
ce matin.
Avec grand plaisir.
À très bientôt. Et on va écouter précisément cette chanson, Un monde meilleur, pour se quitter. À bientôt, Hervé.
À bientôt.
Je me défile d'actualité. Ça fait bien longtemps. J'oublie tous mes rêves. Je perdrai ma vie à la gagner. Ça, je le sais. Que le temps, c'est de l'argent. Que je passe mon temps à le perdre. Réveille-moi si on peut rêver d'un monde meilleur. J'ai pas tué l'espoir qui brûle à l'intérieur. Réveille-moi si on peut rêver. Rêver d'un monde meilleur. J'ai pas tué l'espoir. À l'intérieur, on fait le voyage en solitaire. Ça fait bien longtemps qu'on fait plus la peur. J'ai pas de crédit pour m'épargner. Ça, je le sais. Que je finis sur les dents, un sourire aux lèvres. Réveille-moi si on peut rêver d'un monde meilleur. J'ai pas tué l'espoir.
Réveille-moi si on peut rêver d'un monde meilleur. Voilà le message du chanteur Hervé ce matin qui nous a accompagnés tout au long de ces RTL Petit Matin Week-end. Un monde meilleur, c'est un monde dans lequel Agnès Bonfillon tient les rênes de la matinale d'RTL, en tout cas. Bonjour Agnès.
Quel poète, mais quel poète cet Olivier Bois.
Tout va bien, Agnès?
Oui, et vous?
Bah écoutez, nous on termine la tranche. Hein. Moi j'étais le petit nouveau du week-end. Je remercie Béa et Oriane qui m'ont guidé et qui m'ont tenu la main. Et je vous... Ben, passe la parole et laisse.
Vous pouvez me répéter un petit peu les paroles d'Hervé, ça me fait du bien.
Réveille-moi si on peut rêver d'un monde meilleur.